attention, pas question d'accélérer, et tout le monde nous doublait. Oui, vraiment, la vie est dure. Il fait chaud dans la voiture. On s'en va à l'aventure. On ne sait même pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Écran Total, le podcast. Ce podcast sera un podcast d'été et sera un peu plus court que d'habitude puisque nous ne vous présenterons que 4 filles. Avec moi pour vous proposer ce nouvel épisode, donc notre fatigué du jour, à la fois fan de super-héros et autres blockbusters avec Will Smith et Tom Cruise, Seb.
Bonjour, je suis fatigué.
Notre passionné de films basés sur les concepts scientifiques ou alors qui nous présente une vision du futur, Pierre.
Je suis une fleur.
T'es fatigant.
Je suis fatigant. Non, ça c'est Antoine, ça. Tu pourrais le garder pour la fin.
Non, c'est toi.
Et enfin, notre promoteur de films français ou coréens, plus proche du Festival de Cannes que des films de camping, Antoine.
Bonjour.
Pour ce podcast, donc on n'a pas fait un thème particulier. Notre seule consigne, c'était de choisir un film qui n'était pas trop connu et qu'on avait envie de vous faire découvrir.
Pas trop.
Enfin, pas trop, après ça dépend.
C'est relatif, quoi.
Antoine, il n'est pas du tout connu.
C'est Antoine, c'est bon, il est dans le thème.
On aura donc un film coréen, un film écossais, un film américain pur jus et un film franco-américain. Non, anglo-américain.
Non, anglo-américain.
Ah oui, bah, j'allais dire, moi j'ai loupé un
franco-américain.
Film.
Franco-américain.
J'ai regardé un bon français, mais ça fait pas ça la nationalité du film.
Et donc on a fait un tirage au sort pour savoir qui allait commencer la présentation et c'est tombé sur moi. J'ai donc choisi La Part des Anges. Hey, I know I'm gonna be the man who's fevering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walks 1,000 miles to fall down at your door when I'm watching. Alors, La Part des Anges, c'est un film écossais de Ken Loach qui est sorti en 2012. Qui est quand même un petit peu connu puisqu'il a eu le prix du jury au Festival de Cannes, mais bon, pas trop quand même, c'est pour ça que j'ai estimé que j'avais le droit de le choisir.
Moi je connaissais pas.
Bon bah voilà,
en même temps,
c'est
quand
bien.
Il y a Cannes, je connais pas.
Palme d'or de cette année aussi, Ken Loach.
Oui, bah.
Et j'ai pas envie de connaître non plus. Voilà.
Mais si justement, ce n'est pas du tout le genre de film qu'il fait d'habitude. Bref, j'ai choisi ce film parce que c'était à la fois un film de Ken Loach, mais qui était quand même une comédie et beaucoup moins déprimant que ses films habituels. Je trouvais que le thème était sympa et qu'on n'en parlait pas beaucoup. Et voilà, j'étais ressortie de ce film. C'est plutôt un film, je trouve, où on ressort, on se sent bien. Quoi. Voilà, c'est pas déprimant, c'est pas. Et c'est un film écossais, donc il n'y en a pas non plus tant que ça. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce film. Est-ce que, juste avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, est-ce que vous avez plutôt aimé, plutôt pas aimé, ou moyen ? Antoine ?
Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé.
J'ai assez bien aimé.
Moi, je dirais moyen plus.
Bon, ça va, il n'y a pas de moyen moins, c'est déjà pas mal. Donc, de quoi ça parle ce film ? C'est donc, comme son nom l'indique, dans l'histoire, on parle de la part des anges, qui est en fait le volume d'alcool qui s'évapore durant le vieillissement en fût. Et c'est une expression qu'on utilise pour le vin et pour le whisky. Et là, en l'occurrence,
pour le whisky.
Oui,
et la Volvic, non ?
En fait, c'est 2% d'alcool par an qui est perdu. C'est répété dans le film à un moment d'ailleurs, c'est précisé. C'est
et même dans que... les bouteilles, non
Et on
dans
l'a pour le. Et
non,
en fait,
dans les fûts,
que dans les fûts.
Le... pour le vin d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est les vins jaunes en fait, recomplètent les fûts pour faire des bouteilles de 75 centilitres pour le vin. Certains, bah, les whisky ou le vin jaune, ils ne séparent complété. Du coup, comme un fût doit faire un nombre de bouteilles, bah, vu qu'il y a moins de liquide, les bouteilles sont plus petites. Quoi. Donc on a des bouteilles d'un demi-litre ou plus petites, suivant si elles sont recomplétées ou pas. Donc, effectivement.
Et donc là, comme ça passe en Écosse, forcément on parle de whisky et pas de vin, puisqu'ils sont quand même pas très réputés pour leur vin. Donc c'est l'histoire de Robbie qui est joué par Paul Branigan. Et donc en fait c'est un gamin qui est violent, qui a déjà été en prison et qui a du mal à sortir de cette spirale.
Ouais,
et...
gamin, il a 21 ans, un truc comme ça quand même.
Ouais, bon, un jeune, allez.
Jeune adulte.
Hein. Le racisme pour les jeunes.
On vieillit tellement qu'on attend à 25 ans, c'est un gamin, quoi.
Bref, alors, il s'améliore quand même, puisqu'il a rencontré une fille et que ça lui a fait du bien. Mais c'est pas encore ça.
Elle l'a
soulagé.
Elle fait
toujours du bien à un moment ou à un autre. Depuis, il va mieux, quoi. Ah, c'est ce qui lui manquait. C'était un peu de... Voilà, hein.
C'est Ken Loach qui a fait ça, t'es sûr?
Et oui, c'est là où c'est surprenant. Bref, mais malgré tout, il est quand même pas au top puisqu'il se retrouve à devoir faire des travaux d'intérêt généraux. Et il va rencontrer quelques amis là-bas et aussi celui qui s'occupe d'eux, qui est donc Harry, qui est un mec bien et qui va les initier justement au whisky.
Qui est leur agent d'approbation.
C'est ça. Et du coup, on va voir le parcours de ces jeunes. Et il se trouve que Robbie, en fait, il a beaucoup de talent pour goûter les whiskies et deviner quel whisky on le fait goûter. Et donc, on va suivre le périple de ces quatre jeunes qui vont décider d'aller à la distillerie de Balbert, puisqu'il y a un grand whisky qui va se vendre, qui vaut un peu plus $1 million, et ils décident d'aller voir cette vente. On retrouve comme acteur Paul Branigan, qui est donc un amateur. En fait, c'est le scénariste qui l'a découvert. Il était en fait dans une association et il aidait les jeunes à s'en sortir, puisque lui-même a effectivement fait de la prison et avait pas très bien tourné comme son personnage. On a aussi John Henshaw qui était dans Looking for Eric. Roger Allam qui a fait Tamara Drouve et Comme Vendetta, La Dame de Fer. Et celui qui fait goûter les whisky, en fait, c'est pas non plus un acteur professionnel, puisque c'est un vrai spécialiste de whisky, c'est vraiment son métier. Dans le film, on a autant d'amateurs que de professionnels finalement dans les acteurs. Mais je trouve que ça...
Ah, c'est pour ça.
Bah, j'allais dire que je trouvais que ça se voyait pas trop.
Ah, non, bah, je...
ça m'a pas choqué.
J'aurais
moi,
pas
franchement.
Dit, je l'aurais pas vu.
Voilà.
Donc... Parce que moi aussi, c'est un des gros défauts que je reprocherais, c'est que le jeu d'acteur, il est pas terrible, justement. À part quelques-uns qui s'en sortent, genre le jeune, justement, le personnage principal, certains rôles secondaires, je trouve pas terrible en fait, en tant qu'acteur.
Bah, je trouve que dans les rôles secondaires, donc si on reprend, il y a les trois autres jeunes qui sont avec
eux,
lui.
Eux, ça va. Les trois jeunes qui sont avec lui, mais genre sa copine, le Harry, justement, là, le vieux, je trouve pas terrible du tout.
En fait, alors lui, pour le coup, c'est vraiment un acteur professionnel, donc comme
c'est
quoi,
con.
Tu vois.
Comme quoi.
Il s'est trompé de vos garçons, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, ça passe pas après.
En même temps, on voit pas non plus tant que ça dans le film au final.
Heureusement.
Moi, j'ai bien aimé aussi le jeune là qui s'appelle Albert, qui est quand même un idiot fini.
Et le crétin, c'est un peu le rigolo de la bande. Hein.
Ouais,
enfin, malgré lui, quoi.
Oui, malgré lui.
Oui.
Mais voilà, il y a quelques scènes. Bon, il y a la fameuse scène où il décide du coup d'aller à la distillerie pour donc cette vente de whisky, où ils sont habillés en écossais, en Highlander, donc avec
en kilt.
Et alors, je sais pas ce qu'il a fait lui avec son kilt, mais visiblement ça se passe pas très bien, puisque dans la marche, en fait, il a la sacoche qui est sur le kilt, qui le tape à un endroit mal placé.
Il lui tape la sacoche.
Non, c'est la sacoche qui est mal placée. Parce que oui. Ce qui est tapé est bien placé.
Apparemment, ça a l'air pas très bien formé hein. Quand les flics regardent sous son kilt, ils disent qu'il a un truc qui est un peu bizarre, donc peut-être c'est lui qui est mal formé en fait.
Oui, peut-être.
Et donc, du coup, on le voit souffrir et rouspéter. Oh, un râleur, tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc, on
quelqu'un,
voit...
s'il te plaît, un peu de respect.
Non, quelque chose.
Non, quelque chose.
Quelque chose
aujourd'hui,
quoi.
Tu es une chose.
De respect, tu es la femme de ménage aujourd'hui, tu es quelque chose. Quoi.
Tu es quelque chose.
Voilà,
il
donc
pas
il y a
une personne.
Aussi même la scène où à un moment il va faire la boulette à la fin du film sans trop en parler aussi. Enfin, on sent que ce gars, c'est vraiment, il y a rien à en tirer, je crois. Que autant le héros, on se dit qu'il va finir bien, autant lui, je pense que il s'en sortira jamais dans la vie.
Mais il a pas, j'ai pas l'impression qu'il ait envie de s'en sortir. Il est heureux comme ça. Il veut aller boire au pub le soir quand sa journée est finie. Et c'est le seul but. J'ai l'impression qu'à part le héros qui a envie de s'en sortir. J'ai l'impression que les autres, ils sont dans leur milieu, ils sont contents et voilà.
Je suis pas sûre que les deux autres personnages soient vraiment contents. Après, ils font pas grand chose pour s'en sortir, mais ils sont pas non plus très heureux de leur sort. Enfin, lui, je pense qu'il c'est juste qu'il est idiot et puis c'est tout, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez des choses à dire sur ce film quand même un petit peu.
Alors, bah moi aussi, j'ai quand même relativement aimé. J'avais un peu peur, surtout au début, parce que je trouvais que le film était très long à partir. J'ai trouvé tout le début de la condamnation, là, c'était pas utile au film, puisque c'est pas ce que ça raconte.
Ah, si,
c'est trop long, parce qu'on voit tous les persos. En fait, pourquoi pas en voir un ou deux, mais de les voir tous, les conneries qu'ils faisaient, je trouvais que ça amenait rien au film. Donc, j'ai trouvé le film très long à partir. Moi, j'ai pas trouvé. Et après, au final, c'est le genre de film qui me fait penser un peu à Little Miss Sunshine, c'est-à-dire c'est des films qui sont pas drôles, qui sont pas tristes, mais qui sont... un peu un feel good movie en fait.
C'est
une belle aventure en gros, et du coup t'es à la fin, il y a la musique, t'es avec eux, t'es content d'avoir suivi leur aventure, et c'est pour ça que je dis que j'aime pas le début, c'est que le début je trouve que c'est pas du tout dans ce ton là, Et moi, ça m'apporte rien du coup. Alors, le film, il a fallu une bonne demi-heure pour que moi, vraiment, je rentre dedans et que j'aime bien.
Alors, ouais. Pour le coup, le début, c'est du, j'ai envie de te dire, c'est du Ken Loach pur jus.
Ouais, mais c'est pour ça que j'aime pas.
Tout va mal, tout va.
C'est
tout
ça, enfin, il avait fait en Écosse, il avait fait Sweet
16
aussi, qui était, alors pour le coup, sur un peu plus jeune que là. Et c'est hyper dur, enfin, c'est. Mais c'est pas du tout positif. Et si j'aimais ce film, voilà, c'est pour le côté feel good movie, l'aventure ouais. sympathique.
Non, mais ça c'est très réussi. Et puis il y a quand même quelques scènes où on rigole bien. Moi, je suis un moment, quand il s'énerve là, qui fracasse la moto
ah ouais,
du mec,
c'est pas mal, ouais.
Et puis que finalement,
c'était pas la bonne.
C'est pas la bonne moto et tout. Bah j'ai rigolé et bien. Enfin, ça doit être le seul moment où j'ai vraiment rigolé. Mais le reste du temps, j'avais le sourire, on va dire.
Ah bah ouais, c'est ça, une comédie. C'est un film qui donne le
oui,
sourire.
Oui, non mais du coup c'est.
Non mais tu peux pas reprocher un film de pas rire si.
Non mais je le reproche pas. Non, t'as pas dû entendre. Je dis que justement, mais il y a quand même un moment où j'ai rigolé.
Il faut un prétexte pour râler en fait. Dès que tu vas dire quelque chose, il va dire que t'as du contraire pour râler.
Et ouais, non, c'est voilà, c'est le bémol, c'est quand même le début que j'ai trouvé beaucoup trop long. Et puis la scène de fin que tu dis là, qu'il faut pas spoiler, j'ai trouvé qu'elle était très mal filmée.
Pour tu parles de celle avec Harry,
avec le débile, la connerie qu'il fait.
Ah mais c'est pas ça la scène de fin.
Non mais enfin c'est presque à la fin.
C'est le dénouement presque.
C'est enfin, presque c'est... le dénouement. Et ben, j'ai trouvé que c'était, ils auraient pu la refaire parce que elle fait pas naturelle cette scène. Enfin, je sais
c'est
pas
vrai.
Si vous avez fait gaffe, mais
oui, non,
franchement,
je suis
elle fait
d'accord,
pas du
c'est
tout
pas
naturel
en fait.
Et mais... du coup, ouais. Ça casse un peu son. Mais sinon, à part ça, le film, ça reste. C'est une belle surprise. Moi, je suis content de l'avoir vu en tout cas, parce que j'en connais pas beaucoup des films comme ça.
Antoine ?
Ouais, bah moi j'ai. Bah, j'ai été le voir parce que c'est un film anglais en fait, avant tout. Donc,
écossais.
Ouais, enfin,
ouais,
ça reste anglais. Donc c'est vrai que
non, ça reste
je pense
anglais,
que si,
écossais, quoi.
Si j'avais pas été avec Sylvia, je l'aurais sorti.
Ça reste britannique, tu peux dire, mais
ouais. Britannique,
ouais. Et plus européen, enfin
mais,
presque, pas européen.
Mais entre nous, moi celui-là j'ai dû le regarder en français d'ailleurs, un peu d'habitude,
ah,
j'aime bien le regarder
accent,
en VO, mais c'est ouais. Impossible. À... Enfin, moi, en tout cas,
alors t'aurais pu le regarder, c'est marrant, parce que toi qui est sensible, je trouve, à la musique dans les films, la langue fait aussi partie de la
ouais, mais là,
musicalité
je la comprends
d'un
pas.
Film.
En fait, on l'a sous-titré,
mais tu le regardes en sous-titré, et effectivement, je trouve qu'ils ont cet accent-là, même si tu comprends la langue, même si tu comprends pas la langue. Juste à l'accent que t'entends, tu sais que ça se passe en Écosse en fait.
Oui, juste toi, Pierre, tu l'as regardé quelle version ?
En français. Mais c'est peut-être ce qui a aidé au fait que je trouvais le jeu d'acteur pourri, c'est que les sons de doublage doivent être pourris aussi.
C'est ouais, toujours c'est... un peu délicat de critiquer un jeu d'acteur en VF.
C'est clair que le doublage, il fait
pour beaucoup. Je pense que le doublage n'a pas aidé sur certains personnages.
Moi, je vois. Moi, je pense que le film, il est, on va dire, un peu en trois parties. Il y a effectivement cette première partie que t'as pas aimé, toi, Seb, qui est où on voit, alors, qui est, on va dire, du pur Ken Loach. On voit la misère, mais on comprend. Je pense que tous ces enjeux-là. Permettre de comprendre pourquoi le jeune là, le héros dont j'ai pas retenu le nom, veut partir.
Robbie
veut partir et veut retourner à Londres en fait, parce qu'en fait il se rend bien compte que bah, il a pas un avenir énorme.
Non, c'est pas qu'il veut retourner à Londres.
Non, mais qu'il veut faire quelque chose d'autre et qu'il voit bien qu'il est embêté par la bande de jeunes qui le harcèle, que sa belle famille l'aime pas plus que ça. Enfin, il a
c'est
aucun.
C'est moins qu'on puisse dire.
Non, mais genre, c'est effectivement. Et bah, d'ailleurs,
il y a des raisons quoi.
Oui, oui, mais justement, je trouve que on comprend la première partie amène justement. La fin du film, enfin ce qu'on va appeler le casse, ce qu'on pourrait appeler dans la troisième, ce que je mettrai dans la troisième partie du film, parce que ils savent très bien qu'ils auront jamais d'argent, enfin voilà, c'est la misère.
Non,
c'est la
bah
classe,
moi tu peux faire un film heureux sans être dramatique.
Mais le film est heureux,
après,
le film est heureux,
c'est
ça, c'est là qui est paradoxal.
Je pense qu'il fait qu'on se prend un peu d'affection pour eux et qu'au final il faut quand même quelque chose, on va dire, qui est pas franchement bien à la fin du film. Mais c'est pas grave parce que ça va leur permettre de s'en sortir.
Mais moi justement, c'est la scène d'intro qui me casse. Moi, ce qu'il a fait, moi, j'arrive pas à le pardonner, même à la fin, entre guillemets. Moi, ça me gêne ce qu'il a fait au début. Et
ah oui, mais c'est ce qu'il était avant, en fait.
Ce pourquoi il est condamné, bah ouais, mais du coup, moi, ça me gâche ce personnage, quoi.
Mais ce pourquoi il est condamné aux travaux d'intérêt général, c'est pas quand il a tapé sur le jeune.
Non, mais la bande qu'il poursuit, là.
Oui, mais là, j'allais dire, il est violent, mais comme les autres, il
ouais,
se défend.
Moi, ça m'a dérangé.
Pas...
Et je trouve que ça fait partie aussi, on va dire, une fois de plus, la construction du film, ou même au développement. Ouais, à la construction du personnage. Mais la construction du personnage, je trouve, est... On peut faire un parallèle avec la construction du film où effectivement au début c'est très sombre, ces scènes de.
Ouais, mais alors que lui, c'est que tu vois les autres même, tu vois les.
Oui, mais même les autres. Alors,
qui sont des persos secondaires.
Je reprocherais. C'est des personnages un peu secondaires qui sont juste là, par exemple.
On n'a pas besoin de voir leur misère, quoi.
Le Albert, le crétin, je dirais, lui, il ne voulut pas d'un iota du début jusqu'à la fin du film. La fille, ben, c'est pareil. C'est vrai que les trois personnages qui l'accompagnent, qui sont, je trouve, très sympas. Mais qui effectivement, c'est comme je disais, à la fin, au début du film, je les sens pas malheureux, et à la fin, je les sens pas spécialement malheureux, et on sent qu'ils vont pas quitter. Alors c'est quoi la capitale de la
Glasgow
ville.
Et c'est pas la capitale.
Non, c'est Edimbourg, la capitale.
Alors, ça se passe où ?
Ça se passe à Glasgow. Voilà, et on sent
ils
pas la capitale.
Ils vont à Edimbourg.
Ils vont à Edimbourg parce que l'autre il fait une blague sur le château qu'il connaît pas.
Ouais.
Et Et justement, c'est vrai que ces trois personnages n'évoluent pas des masses. Même l'agent
Harry
évolue pas, ils sont juste là pour faire évoluer le personnage principal. Et le film, je trouve, effectivement, est très sombre à la fin. Enfin, non, est très sombre au début et après à la fin est plein d'optimisme quand on le voit partir. Et il est comme le personnage, je trouve. Au début, le personnage, il a aucun futur. Son présent est sombre, son futur est encombré. Et à la fin du film, alors peut-être qu'il va tout merder, hein, parce que bon, d'un autre côté, c'est pas un génie non plus. Mais en tout cas, on croit qu'il peut y arriver et il a une seconde chance
S'ils avaient été réalisés par Dolan, là, on aurait eu le carré qui se serait ouvert sur la fin, sur le personnage quand il part avec sa voiture. Pierre
Non, mais Seb, il a bien dit à peu près. Enfin, je suis d'accord avec ce que Seb a dit. C'est un feel-good movie, ça se regarde, ça me fait sourire, quelques fois rire, mais bon, ça fait plus sourire que rire tout le long du film. J'avoue, j'aime bien justement ce débile là. Il était bien là pour ramener le côté humour dans le film. Après, moi, je sais que c'est pas un film qui va me marquer. Enfin, dans quelques semaines ou mois, on m'en reparle. J'aurais presque oublié le contenu du film, à part le dénouement peut-être. Mais voilà, moi, c'est pas un film qui me, je sais pas, qui retient mon attention plus que ça. Ça se regarde une fois, c'est marrant, mais pas plus, quoi.
Après,
moi, je dois...
En tout cas, voilà, c'est mon avis perso. J'ai pas grand chose à dire.
Après, je dois dire aussi que, effectivement, nous on l'avait vu au ciné.
C'est vrai qu'il y en a pas souvent. Mais...
Après, on l'avait vu au ciné. Et c'est vrai que, bon, alors peut-être parce qu'on en voit trop ou beaucoup, je sais pas. Moi, je l'avais oublié. C'est vrai que quand Sylvia.
Tu vois, c'est exactement ça que je veux
dire. Non, mais
c'est que,
après.
Je pense que je vais l'oublier de la même façon dans un film.
Peut-être, mais en attendant, quand Sylvia l'a proposé pour le podcast, il m'est revenu à l'esprit et il m'est revenu en bon souvenir. Et en le revoyant, j'ai trouvé ce film sympa.
Mais en fait, moi, je l'ai pas choisi parce que c'était un film qu'on pouvait pas oublier. C'était justement pour le. Ce que tu ressens quand tu le vois. Voilà, c'était. Et puis, ce que tu ressens quand tu le vois ou, voilà, t'es plutôt. T'es plutôt bien et vu qu'il fallait choisir un film pas trop connu, du coup
et puis une fois voilà. une fois de plus, je trouve,
il aurait été trop connu.
je pense qu'on a déjà dû en parler dans notre podcast ou parce que t'as déjà proposé des films anglais, Sylvia, mais je trouve que c'est la force de ces films anglais qui nous le seul film en France qu'on a su faire comme ça, on va dire, c'est toujours le même qu'on replace là, c'est le film de l'handicapé
intouchable,
ouais, ou sur un fond dramatique, ils sont capables de faire une comédie et quelque chose de léger c'est pas du niveau d'intouchable, je suis d'accord, sauf que nous on est capable en France de citer qu'intouchable alors qu'en Angleterre des comédies entre guillemets comme ça, il y en a beaucoup.
Sociales, ils appellent ça.
Ouais, des comédies sociales, il y en a beaucoup, enfin, et qui c'est vrai que c'est une des forces de leur cinéma.
On avait vu Pride, celui sur la grève avec les homosexuels, ceux qui sont en grève,
avec les mineurs.
Ouais, voilà.
Bah, Looking for Eric,
les homosexuels avec les mineurs,
j'ai pas aimé un film.
Ah, mais t'as peut-être pas aimé, ça c'est un autre souci.
Et pourtant, moi je suis fan de Cantona,
aimé, mais ça reste, c'est des films dans la même veine.
Non, tu peux pas comparer. Celui sur la grève, c'était plus ce style-là.
Tu peux pas comparer Looking for Eric avec celui-là.
Ou The Full Monty, qui est plus drôle, là, on est d'accord.
Oui, mais c'est basé sur le terroir anglais. Enfin voilà, le côté de l'Angleterre qu'on connaît peut-être pas trop.
Mais là, on rappellera quand même que c'est en Écosse.
Ouais.
C'est en Écosse, alors britannique. Britannique.
Non, mais
donc voilà.
Mais presque Billy Elliot en fait dans le genre de film. Quoi.
Mais ouais, c'est un peu pareil.
Ça me fait presque penser à ça.
Tout à fait.
Soit en Angleterre aussi. Enfin, Billy Elliot en Angleterre.
Effectivement, ça se passe sur fond de grève des mineurs. Et pourtant, Billy Elliot sort de là.
C'était en Écosse aussi d'ailleurs. Billy Elliot.
Non, c'est Manchester. Manchester,
c'est le nord de l'Angleterre.
Mais ça se passe pendant la grève. Et effectivement, à la fin de Billy Elliot, t'es plein de bonheur, plein d'espoir, malgré le fait que le film se passe dans un milieu mais hyper sombre. Enfin.
Et juste, alors, on va faire peut-être sur nos quatre films, si vous deviez lui mettre une note sur 10. Allez, Pierre.
Oula.
Ouais, je mettrais 5.
Oh, bah c'est pas cher payé quand même.
Moi, ouais, je lui mettrais, dans mon classement, je lui mettrais 7.
Ouais.
Oui, je mettrais 8, ouais.
Ouais, moi, je mettrais entre 7 et 8, voilà, allez, 7,5. Bon voilà, ça fera une bonne moyenne quand même. On verra à la fin de ce podcast ce qu'on aura comme moyenne.
Faut noter la moyenne.
je vais noter les notes. Le prochain film, c'est celui qui a été proposé par Seb et c'est Jack Reacher.
We'll be right back.
Alors, Jack Reacher, donc il y a un film de 2012 de Christopher McQuarrie, donc qui a notamment travaillé sur les deux derniers Missions Impossibles, donc qui est produit par Tom Cruise et qui est joué notamment par Tom Cruise, avec aussi Rosamund Pike qu'on a pu voir récemment dans Gone Girl, Werner Herzog qui est un réalisateur un peu connu, et Robert Duvall, donc c'est les acteurs on va dire principaux de ce film. Alors en quelques mots, l'histoire c'est quoi ? Donc c'est d'une fusillade, on va dire, qui a lieu aux États-Unis, où un sniper tue 5 personnes. Et ce sniper, on va dire, il est attrapé par la police. Il sait plus si c'est lui qui a tué ou si c'est pas lui qui a tué. Et il donne un nom au flic, il donne le nom de Jack Reacher. Et il se trouve que à peu près à ce moment-là, en tout cas, Jack Reacher, donc, qui est interprété par Tom Cruise, arrive. Donc c'est un personnage assez obscur qui est un ancien militaire qui en gros vit sa vie très isolé, il laisse de traces nulle part, il est un peu atypique, il se moque de tout. Et on va dire il va avec l'avocate de ce sniper reprendre l'enquête et finalement il va s'apercevoir que c'est plus compliqué que ce que ça en a l'air d'un simple sniper qui aurait tué 5 personnes. Voilà en gros schématiquement l'histoire, c'est une enquête quoi.
Très bien résumé ça.
Et c'est pourquoi tu enquête. L'avais choisi?
Alors, je l'ai choisi parce que justement, contrairement à la sensation que j'avais eue en allant le voir au ciné, moi ce film m'avait mis une claque. Je vais souvent voir les films de Tom Cruise parce que j'adore Tom Cruise, mais on va dire c'est des films qui me font passer un bon moment. Mais voilà, ça reste. Je suis pas étonné que certains n'aiment pas. Et quand j'avais été voir celui-là, déjà la scène d'intro du sniper où il n'y a pas un bruit dans le cinéma et que d'un coup on voit quelqu'un qui abat froidement 5 personnes, j'avais trouvé ça impressionnant d'ailleurs dans tous les sens du terme, même un peu flippante. Et puis finalement c'est un film que je trouve on voit plus, c'est-à-dire que moi j'aime bien les films d'action, j'aime bien les enquêtes policières et c'est un film que j'arrive pas trop à classer au final. C'est que je le trouve bon parce que notamment il est atypique, peut-être qu'il y aurait plein de films comme ça, je le trouverais plus moyen. Mais j'en vois pas beaucoup des films comme ça. Pour moi, c'est un film où il n'y a pas d'écran bleu. Ça reste assez bien joué. Il y a peu de personnages, mais je trouve que chacun est dans son rôle. Les scènes d'action, il y en a juste ce qu'il faut. Il n'y a pas de surenchère. Je trouve que le rythme, il est assez bon. Donc moi, c'est un film qui, par sa globalité, on va dire, plus que par tout le reste, m'a donné vraiment un sentiment très positif au global, quoi.
Et donc, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que vous en avez pensé, Antoine ?
Moi je l'avais donc déjà vu, c'était ma seconde vision là, et ben la première fois j'avais bien aimé, et j'ai toujours bien aimé en fait, je trouve que c'est un genre qui se fait plus tellement, et c'est à voir.
Pierre ?
Moi je l'avais jamais vu, pareil j'ai bien aimé.
Alors moi je l'avais déjà vu, la première fois que je l'avais vu en fait j'avais moins aimé que la deuxième, je pense parce que Seb tu me l'avais trop vendu, et du coup j'avais été déçue en le voyant comme beaucoup de films qu'on nous a vendus
de manière c'est toujours le risque, hein.
Voilà. Et du coup là en le revoyant une deuxième fois, j'avoue que je l'ai regardé un peu en reculant, et au final j'ai eu une bonne surprise. Je vais reprendre l'expression de Pierre, c'est quoi, c'est pas le chef-d'œuvre du siècle, non c'est pas ça.
Ça c'est ton expression.
C'est pas un grand film.
Non. Moi,
bon alors c'est un peu dur parce que j'irai pas jusque là justement.
D'accord.
Donc j'ai resté sur.
Je dirais pas que c'est pas un grand film.
Voilà.
Donc c'est un grand film.
C'est un moyen plus.
C'est un film de 2h15.
Ok, donc si on dit c'est pas un grand film, mais c'est un film à la taille de Tom Cruise, tu vois, vu qu'il est pas très grand.
Pas le physique, on a dit.
Est-ce que tu veux...
Non, c'est pas la maman et pas les vêtements.
Non, bah après, je pourrais, si vous voulez, compléter, ouais, parce que après, j'ai pas mal d'anecdotes, mais je sais pas si déjà vous voulez en parler ou parler plutôt de scène.
Moi, Antoine, il est chaud. Je crois.
Alors, Tom Cruise, Seb, c'est toi qui me l'a refait découvrir, on va dire, en allant au cinéma ensemble, parce que c'est vrai que c'est un acteur que j'avais pas spécialement, que j'appréciais pas plus que ça, et qui a une période de sa vie, peut-être dans les années 90-2000, je sais pas trop, on l'entendait plus pour ses frasques extra-professionnelles que professionnelles. Donc c'est vrai que je m'étais un peu détaché du personnage, de l'acteur, et depuis quelques films, là, ces derniers films, honnêtement, à part Oblivion, qui est un film à oublier, mais sinon je trouve qu'il arrive à proposer, même dans des gros blockbusters, l'émission Impossible, il arrive à proposer des visions ou des genres qui sont plus tellement représentés en fait en ce moment, et c'est vrai que celui-là fait penser un peu à des films noirs des années 20, des années 30.
Moi ça me fait penser à Inspecteur Harry un peu aussi comme genre.
Mais c'est vrai, ouais, c'est
mec en moins violent.
En moins violent, mais le mec tu sais qui est un peu froid, assez froid malgré tout, qui
alors,
respecte pas trop la loi.
C'est pas le gentil héros qui couche avec la fille, qui arrête les méchants, qui les
vend,
qui s'en va quoi.
On sort, on... je trouve qu'on arrive un peu à sortir des clichés. En fait, il arrive, Tom Cruise, alors bon, c'est vrai que je crois que d'après ce que j'ai cru comprendre, à Hollywood, il faut qu'il crée maintenant ses propres films pour pouvoir tourner oui. dedans. Mais je trouve qu'il arrive à proposer des choses qui, au final, amènent un vent de fraîcheur. Et pareil, alors je sais pas si c'est le cas pour ce film-là, mais je sais qu'il joue des fois ses cascades, c'est lui-même qui l'a
ouais,
fait.
Là, c'est lui aussi qui
et je trouve
fait.
Que dans
et
le
notamment
montage...
la poursuite en voiture, là, c'est lui qui a tout.
D'accord, et je trouve que dans le montage, ça se ressent parce qu'il y a des plans de coupe en moins. En fait, on n'est pas obligé de couper pour enlever la doublure et mettre un gros plan de l'acteur.
Ouais.
Et là, il y a une continuité, notamment la scène finale dans la bataille dans la carrière sous la pluie, là, qui est, je trouve, filmée à l'ancienne, plus en mode
Vomito
Jason Bourne.
Jason Bourne, où les plans ils succèdent.
Et tout se voit, alors c'est vrai que ça peut donner un peu une espèce de lenteur.
Ça fait un peu vieux d'ailleurs.
Ça fait un peu vieux, mais.
C'est l'accent posé, c'est plus c'est posé. Quoi.
Mais
plus
je sais
posé,
que par exemple, dans d'autres podcasts où des fois on parlait un peu de la surenchère de la mise en scène, style Dolan avec l'écran qui s'écarte, ou Quaron, mais Inarritu dans ses films où c'est attention, j'ai une caméra et je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Là, c'est très sobre.
C'est sobre et simple.
Et c'est très. C'est très costaud.
Et même les batailles, je veux dire, il se prend pas 15 coups de poing.
S'il est pas contre 200 personnes.
Il y a 4 types à tuer, quoi, en face.
C'est un chou, c'est plus crédible, on va dire.
Moi, j'avais deux remarques à faire sur ce film. Je trouve qu'il amène pas grand chose au final à l'histoire. C'est parce qu'au début du film, on nous le présente comme une espèce de super héros entre guillemets. Enfin, en tout cas, en tout cas, comme un héros, voilà, qui est sorti de la civilisation, qui est une espèce de légende, le Kaiser Sosé du bien, on va dire. Enfin, personne ne sait où il habite, personne ne sait le trouver, et en fait, c'est lui qui nous trouve. Quand on a besoin de lui ou quand on le demande, mais je trouve qu'au final, ça sert pas grand chose à l'histoire. Il aurait pu très bien, comme on voit dans d'autres films ou séries américaines, être un gars du FBI ou de la CIA qui. Alors non, c'est le FBI, Jack l'intérieur. Bauer. Non, mais il aurait pu, voilà, des fois ça arrive. Je me souviens dans une saison de Dexter où le gars il était dépêché d'une autre ville, il arrivait, il était en tant que expert qui repartait.
Après,
c'est
vrai que je l'ai pas dit, mais c'est tiré d'un livre en fait. Donc, tiré du 9e livre de la série.
Oui,
d'ailleurs.
Mais.
Effectivement, ils sont aussi obligés de respecter un cadre.
Et tu disais, je crois, ça s'appelle comment les livres ? Parce que ça s'appelle pas le Jack Reacher, les livres. Si, c'est le nom du héros, le bouquin ou
non, alors là, il s'appelle One Shot. Et c'est Lee Child. Et en fait, c'est toujours. Il n'y a jamais Jack Reacher dans le titre, mais c'est toujours lui, le héros des bouquins. Et il y en a aujourd'hui, il y en a 18 ou 19, je crois, qui ont beaucoup de succès. Ça, c'est. Ils ont choisi, en fait, volontairement de prendre le 9e pour pas avoir à présenter le personnage, en fait. Justement, pour que ça soit. En gros, le mec, il arrive. Contrairement au film dont on a parlé avant, d'ailleurs, c'est marrant, c'est que le réalisateur, il dit que ça l'arrange bien parce que le personnage, il veut pas le faire évoluer. Justement, il veut pas qu'il se lie d'amitié avec l'héroïne. Il repart comme il est arrivé au final. Il a pas changé d'un iota. C'est-à-dire, il est arrivé d'une façon, il repart. Il y a pas eu un voyage où ça a fait évoluer sa façon de voir les choses, quoi. Il est venu, point barre.
Après, c'est pareil. Je trouve que la fille, donc, là, celle qui joue le rôle d'une avocate. Ouais. Je trouve qu'elle amène pas grand chose au final. À part Herzog, l'allemand là, qui joue le méchant, et Robert Duval qui a un rôle rigolo.
Robert Duval est très rigolo.
Alors, mais
ouais,
part...
il est même énorme dans ce
il
film.
Est franchement.
C'est la grosse surprise du film, c'est lui.
Et puis, il a un côté rigolo, je trouve.
Qui est un peu décalé. Puis j'ai envie de dire, c'est le. C'est le mec un peu qu'on a envie de, que t'aimes toujours, quoi, entre guillemets. C'est toujours ces second rôles qui sont toujours.
Ouais, alors par contre, c'est bien la gloire du pays américain. Vive les armes à feu.
Le mec,
il
tient un stand de tir.
Il
tient un stand de tir.
Mais bon, il économise son œil droit. Enfin,
ouais,
voilà, il y a plein
préserve
de.
Sa vision nocturne.
Même il y a
ouais,
toi
c'était énorme, c'était à mourir de rire, c'était bon, ça c'était
des. Toi même quand il file le couteau à Tom Cruise à la fin, il ramène un pauvre couteau là.
Et même il y a une phrase à un moment, moi que qui est pas une phrase rigolote à la Chuck Norris, mais quand il dit il y a une balle, alors je sais plus exactement ce que c'est les termes employés, mais quand il dit moi je tire deux balles, la première c'est pour ajuster, et la deuxième je tire dans le mille en fait. Enfin,
Non mais il y a plein de répliques, c'est pas des punchlines,
Non mais je trouve honnêtement, enfin. Bon, alors après, c'est vrai que dans le podcast, on voulait découvrir. Alors moi, je reste persuadé que Tom Cruise, les gens connaissent et connaissent ce film. Alors peut-être que je peux me tromper.
Pour moi, c'est un film qui n'a pas été beaucoup.
Mais je pense comme tous les nouveaux films de Tom Cruise, à part
Oblivion,
je pense qu'il n'y a pas grand monde. Edge of Tomorrow, il n'a pas marché. Et Mission Impossible, il a marché parce que c'était le quatrième d'une série. Mais,
oui, peut-être.
Edge of Tomorrow, je pense qu'il y a eu tous les gens n'ont plus entendu parler que Jack Reacher. Enfin, il me semble qu'il y a eu plus de.
Il y avait plus de
Jack Reacher.
Ouais, mais bon.
J'avoue, j'ai l'impression qu'il est vraiment passé à la trappe. Moi, si Seb m'en avait jamais parlé, j'aurais jamais entendu parler de ce film.
Edge of Tomorrow, qui est quand même.
Il n'est pas vieux.
Edge of Tomorrow, qui a quand même effectivement eu un. une publicité, on en a entendu parler, qui a fait un bide. Alors effectivement, peut-être que Jack Reacher, il a peut-être pas bien marché, je sais pas.
Oh, celui il a quand même remporté. Plus de 200 millions pour 60
suite,
millions
non,
de budget.
Il
y aura un 2 qui va sortir.
Une suite qui a été annoncée.
On verra ce que ça donne. Quoi.
Non, mais en tout cas, c'est, moi, je l'ai revu et c'est un très bon film, franchement.
Alors, moi, j'ai bien aimé aussi. C'est vrai que la scène de début est assez impressionnante du fait aussi qu'il n'y a pas de musique.
Et il n'y a pas un mot. 8 minutes sans mot, sans
ça.
Musique.
Après, le seul reproche, c'est que c'est trop facile. Enfin, trop facile pour lui, j'entends. Hein. Tout est facile, il trouve tout de suite. J'aurais aimé, il n'y a pas assez de failles, en fait. Pour moi, il manque juste ça dans le personnage.
Si, c'est marrant, s'il a une faille, on va dire, et c'est ce qu'il est.
Toute petite, et
mais
puis...
Mais à la fin, c'est marrant, parce qu'il rebondit sur sa petite faille, quoi.
Voilà, et...
En disant, en gros, que même lui,
Et en même temps, c'est lui qui la comprend aussi tout seul.
Oui,
quoi.
Il comprend
tout.
Il la
comprend juste retardement. Donc voilà, c'est juste une petite faille dans le personnage et que ce soit un peu moins facile, je pense que ça aurait été pas mal. Mais sinon, c'était un bon film.
Ouais bah pareil, hein. Je trouve que c'était un bon film. Je connaissais pas, je suis bien content de l'avoir découvert. Donc c'était le but de ce podcast. Je le recommanderais maintenant. Hein. Je trouve que c'est vraiment un bon film. Après, Tom Cruise, moi je suis pas forcément grand fan.
Oui, non, mais ça je peux comprendre. Hein.
Voilà, que ça aurait été quelqu'un d'autre, je pense pas que ça aurait changé le film.
Alors surtout que, en plus, il a rien à voir hein, le perso dans le bouquin. Il fait 2
ouais,
mètres,
il
est énorme. Donc Tom Cruise est lentille.
Il est vraiment pas taillé pour le truc.
C'est
ouais,
le
en même temps, s'ils avaient pris Vince Diesel, tu vois, je pense que ça aurait été moins bien.
Ouais.
Bah ouais non mais c'est le genre de rôle
Dwayne
en fait
Johnson.
Où tu mets un presque un Schwarzy ou un Stallone en fait c'est des films
oui.
qui sortent dans les années qui auraient dû sortir dans
c'est
les années
ça.
80 où
bah,
t'as mis un Schwarzy ou un Stallone
je suis
ça,
même pas sûr
ouais,
pas passé,
je suis pas une fan de Tom Cruise mais il joue quand même mieux que Schwarzy
ouais, moi je préfère
ah non,
ouais,
ça
Tom
me fait
Cruise
presque penser
que...
à un comment il s'appelle presque à un Last Action Hero en fait
oui,
je
oui,
c'est
un
le
peu.
Même genre que bon
non
côté
mais en tout cas c'est vrai
moins, mais...
l'auteur le dit hein, le reconnaît hein, il dit que finalement il est content que d'autres aient pas postulé ça l'a arrangé il y avait que Tom en fait c'était Tom Cruise qui produisait et ben soit de changer voilà mais effectivement le perso a rien à voir quoi mais d'ailleurs juste pour compléter l'auteur en fait il a une scène dans le film c'est un moment Tom Cruise il est en prison quand il sort de prison celui qui lui remet ses effets sa brosse à dents ses billets et tout c'est l'auteur des bouquins qui en fait a suivi tout le long la production et donc ils lui ont donné une petite scène
clin d'œil
quoi.
Par contre je crois que les bouquins sont pas traduits non c'est parce que tu
alors
tu
c'est des bouquins que je sais pas trop si ils sont traduits parce que moi je sais que je les ai achetés ma sœur qui les lit en anglais mais ça a beaucoup de succès aux États-Unis et je crois que mais je pense que c'est pas un personnage qui est fait pour l'Europe d'ailleurs tu parlais Sylvia de ce mec qui est très militaire très patriote et tout et je pense que du coup c'est pas forcément des best-sellers outre-Atlantique mais c'est vrai que je sais pas en fait. Il doit y en avoir quelques-uns qui ont été traduits, j'imagine. Mais je sais pas, pas plus que ça.
Juste un truc, j'ai une photo de l'acteur qui joue le méchant sniper qui me fait penser à François Damien en beau gosse. Mais vraiment, il ressemble trop. Il est juste plus beau que lui, quoi, c'est tout. Non, j'aime bien cet acteur en fait.
Alors on le voit de plus en plus, ouais.
Bah,
il
est pas forcément
Terminator.
Bon, c'est pas un bon exemple, mais là dans Jack Reacher, je le trouve pas mal.
Et alors, je sais pas vous si ça vous l'a fait, mais moi la première fois, alors au bout d'une demi-heure, on sait hein, finalement qui est le vrai tueur.
Bah,
mais moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu un doute. Entre eux, on le voit le tueur, et puis après il chope ce sniper, et je me dis, mais mince, je me souviens plus de la tête qu'il avait le sniper. Enfin, je sais pas si vous avez
non, moi, j'ai vu
cet effet-là de se dire.
J'ai eu envie de faire un rewind pour être sûr,
non,
qu'est-ce
non,
que j'ai vu avant.
J'ai eu un doute, moi, de savoir, mais je me dis, mais tiens, mais c'est marrant, ça a pas l'air d'être le même en même
il
temps, il se
pas,
ressemble.
Non, moi, je lui ai dit, moi, on l'a regardé, et je lui ai dit, mais c'est pas le même acteur.
Oui, mais moi aussi,
moi, ça m'a pas fait tilter, mais ils ont pas arrêté le bon, en fait.
Eh oui, non, mais alors que moi, j'ai eu un doute, quoi. Bon, après, c'est vite levé, mais j'ai trouvé que c'était pas trop mal fait, cette ambiguïté. Enfin bon.
Vous avez des choses à rajouter ou
non
passe
moi
notes
c'est vraiment un film que je bah, je donne ma note du coup tiens moi c'est un film je mets 9 celui-là non mais c'est un film ouais comme j'aimerais qu'on en fasse plus voilà
c'est vrai que ça manque un peu des films
c'est,
comme ça c'est
pas vieux et voilà donc please alors j'espère que le 2 sera bon après je me méfie toujours des deux là moi je suis content c'était pas une suite pour une fois
mais...
donc j'ai plus peur du 2 j'irai le voir hein, mais je
Pierre
voilà,
moi je mettrais 7.
Moi je mets 7 aussi.
Moi je mets 8.
Waouh, bonne moyenne. Et donc le prochain à présenter son film, c'est Pierre, et donc ça va être Le Fils de l'Homme.
Le Fils de l'Homme. Donc Les Fils de l'Homme, sorti en 2006, film réalisé par Alfonso Cuarón, qui a notamment fait Gravity et le meilleur Harry Potter, enfin le meilleur film d'Harry Potter.
C'est vrai.
Prisonnier d'Azkaban.
Et
d'autres films, et d'autres très bons films. Donc ça raconte l'histoire d'un monde, en fait, l'anticipation. Donc c'est un monde en 2025, la Terre, où les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants.
C'est une dystopie, le monde qui nous...
Merci. Et donc en plus d'avoir aussi, bah, on voit tous les problèmes actuels en amplifié à x100, donc tous les problèmes d'immigration, de terrorisme, de machin, de trucs. Donc les femmes peuvent pas avoir d'enfants, donc l'humanité est condamnée, quoi. On célèbre tristement la mort du plus jeune homme de Terre, hein, enfin de sur Terre, hein, je veux dire, au début du film. Et donc c'est un film qui est une grande partie très sombre et très comment dire, pessimiste. Fallait dire que je dise pourquoi j'ai choisi ce film avant, je crois, mais c'est pas grave, du coup.
Non,
je
après t'as le droit aussi. Après, hein.
Donc pourquoi j'ai choisi ce film, parce que je suis très pessimiste et que du coup ça me convient, ça, j'aime bien un film comme ça. Non, l'histoire, non, c'est moi, c'est vraiment un film qui m'avait plu pour les sujets qu'il traitait, pour la réalisation que j'ai trouvé mais grandiose à plein de moments, pour les acteurs que j'aime bien. Et je trouve que j'en entends rarement parler, enfin je connais rarement des gens qui le connaissent, ce film, et donc je trouve ça dommage, et du coup je veux le faire connaître parce que j'aime ce film. Regardez-le, il est bien.
Alors avant qu'on passe aux détails, juste notre sentiment, moi j'ai beaucoup aimé, c'était une très bonne surprise, je le connaissais pas.
Moi j'ai beaucoup aimé aussi.
Et donc Seb...
Moi un petit peu déçu, mais...
Parce que je te l'ai trop vendu, hein.
Ça, en partie, ouais. Mais j'expliquerai pourquoi après.
Du coup, qu'est-ce que je peux dire? Donc, à part Clive Owen, j'ai dit qu'il était dedans déjà, je sais plus. Bon, bref, il y a Clive Owen qui joue le personnage principal qui s'appelle Théo Farron, qui est un ancien militant un peu. Enfin, qui a arrêté de militer et qui s'est résigné à vivre sa vie normalement en se disant bon, bah le monde est foutu et puis c'est pas grave, quoi. Il y a aussi donc Julianne
Moore. Qui est un peu alcoolique quand même.
Un peu alcoolique, oui, mais ça va avec. Ouais. Julianne Moore, donc son ex-femme. Qui elle est toujours militante. Michael Caine, Michael Caine, oui, je le prononce comme ça, je sais jamais.
Alfred.
À mon avis, c'est pas l'acteur.
C'est le mec qui fait les chips et qui
a plus de difficulté à prononcer le nom.
Ouais, mais bon, on sait jamais. Donc, il joue le meilleur ami de Théo Farron et d'autres acteurs, donc j'ai pas tous les cités. Donc, comme je disais, ça se passe en 2000, je ne sais plus combien.
28,
je crois que j'ai dit tout à l'heure, 27 ou 28 peut-être.
Juste, ouais. Tu parles de celui qui a les cheveux longs, qui vit dans une cabane.
Ouais.
Mais c'est pas son père ?
Non.
Pourquoi ? Moi, je trouvais qu'il avait une tête à être son père, en fait. Parce qu'il a des photos du couple, etc.
Non, c'est
chez
son...
lui.
C'est son ami. Enfin, c'est son
je sais
ami,
pas,
quoi.
En plus, avec l'écart d'âge, franchement, pour
mais
moi,
je crois
c'était
que
ses
son
parents.
Père aussi,
ouais. Je crois pas que ce soit son père.
J'ai même pas cherché. Je
non,
sais
non,
pas.
Je sais pas son père. Hein. Enfin, il me semble pas.
Nous allons faire des recherches.
Et donc, aussi pour dire que c'est tiré, c'est adapté d'un film donc de Pete James, donc une romancière anglaise. D'un livre, j'ai dit quoi ?
D'un film.
C'est tiré d'un livre. Donc sorti en 96 qui s'appelle pareil et qui traite après la même histoire, sauf bon, il y a des grosses différences entre les deux. Et dans le livre, je te jure que c'est pas son père, c'est sûr. Hein. Donc je pense pas que dans le film c'est pareil.
Ouais ouais. Enfin sur Wiki, avec tout ce qu'on peut penser de Wiki, c'est marqué son ami effectivement.
Ouais, mais j'ai modifié la page.
Il vient de modifier la page. Bien.
J'ai laissé 30 secondes pour chercher, puis j'ai modifié la page. Au tiers, presque à la moitié, son ex va lui demander de trouver des papiers. Parce qu'en fait, il a un cousin qui est dans l'administration, donc il peut avoir des papiers officiels de passeport et tout.
Son cousin, il est ministre ou je sais pas quoi là pour les œuvres d'art.
Ouais, c'est ça. Donc son cousin, c'est un peu un fanatique qui s'amuse à récupérer toutes les œuvres d'art et à les stocker quelque part pour le bien de on sait pas,
voilà. Hein,
de lui-même. Et donc il a accès à l'administration pour pouvoir délivrer des passeports pour les gens. Et donc son ex-femme à Théo va lui demander de faire des papiers pour une femme. Et donc, quand il va rencontrer cette femme un peu plus tard, eh ben, elle va lui dire qu'elle est enceinte. Et elle va lui montrer aussi.
Enfin, il va le voir.
Ça se voit, ouais. Je
bah, au début, non. Justement, elle le cache
ouais,
quand même pendant bien 20 minutes.
Oui,
pendant bien 20 minutes, on voit la femme sans se douter qu'elle est enceinte, quoi.
C'est vrai.
Et donc, voilà, je n'irai pas plus sur résumer l'histoire. Donc, il va... si, juste un truc. Donc, c'est qu'en plus de lui avoir délivré des papiers, un passeport en règle, il va finalement rester avec elle pour l'aider à jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité pour faire accoucher son enfant et que tout se passe bien par la suite.
Ouais, disons qu'elle doit aller à un point précis.
C'est son but, pour trouver la sécurité.
Elle doit rejoindre un bateau
qui est un peu un paradis perdu.
Moi, du coup, en fait, j'ai aimé l'histoire. Alors, je pense qu'on voit quand même que c'est pas un film qui a eu un budget énormissime non plus, mais en même temps, on l'oublie. Enfin, je sais pas, c'est l'image que ça m'a donné, moi. Enfin, je me trompe peut-être.
C'est pas une critique. Au contraire, je trouve qu'il y a de l'argent.
Je veux et ce que je pense sur le film. Mais ouais, je sais pas. Alors, c'est peut-être parce que, du coup, alors c'est le film qui veut ça, mais que c'est sombre, c'est ils sont. Il n'y a pas beaucoup de lumière dans ce film.
Ah oui, ça c'est sûr.
Après, je suis d'accord que c'est aussi le côté pessimiste. Et à la limite, la seule qui est un peu flamboyante, c'est la femme dans l'histoire. Son ex-femme.
Julianne Moore.
Et alors, peut-être que ça doit être mon côté pessimiste comme toi. Du coup, je trouve que voilà, c'est, malheureusement, ça peut être assez réaliste. Alors, je ne suis pas forcément fan, moi, des films de science-fiction. Alors, c'est tout l'un ou tout l'autre, quoi. J'aime bien ou quand c'est carrément pas crédible, on va dire, ou quand on peut y croire. Et là, le problème, c'est qu'on peut y croire.
Ouais, c'est pas vraiment de la science-fiction, d'ailleurs.
C'est presque une anticipation négative.
C'est plus de une dystopie. Répète-le trois fois.
Dystopie.
Non, mais dystopie, c'est ça.
Ah, d'accord,
c'est l'inverse de l'utopie.
Et donc, en fait, le film, il a eu un budget de 76 millions de dollars.
Ah oui, c'est énorme.
Là, tu vois, je trouve que ça...
C'est plus que Jack Reacher.
Commercialement, non.
Je pense, parce que là...
Au cinéma, ça a été un échec, vu qu'il a rapporté que 70 millions. Mais il y a eu des sommes... plutôt pas mal derrière dans les ventes de DVD, les droits TV et ce genre de choses qui fait que, bah, au final... Je pense qu'il a une bonne réputation, ce film.
Alors moi, franchement, je le connaissais pas avant que t'en parles. Donc, mais non, c'était vraiment une bonne surprise. Alors du coup, moi, j'ai regardé, j'avoue que Seb l'avait vu juste avant et vu ce qu'il m'en avait dit, je me suis dit, oulala, ça va être... Et puis finalement, eh ben, j'ai été super agréablement surprise.
Je suis étonné que t'aimes, parce que c'est sombre
en fait.
Quand même.
Ah, c'est très sombre.
Je suis étonné que t'aies aimé un film aussi sombre.
Mais en fait, ce qui me gêne, moi, c'est pas le côté sombre des films, c'est le côté violent. Donc là, il n'y a pas, y a pas de violence dans ce film. Enfin,
il y a
pas
quelques scènes, quoi.
Mais ça va.
Non,
mais
ça
en
va
fait,
pas...
ce qui est... Tu peux... Non, mais... Ce que j'aime bien, c'est que la quelques violences qu'il y a, elle est tellement bien mise en scène, tellement bien réalisée, que tu... Voilà, elle te choque un petit peu sur le moment, mais il n'y a pas de violence gratuite, il n'y a pas de sang gratuitement ou genre de choses, qui fait que c'est... Voilà, c'est pas un film qui pourrait te déplaire pour ça, Sylvia, toi qui... J'aime pas trop cette partie-là, quoi.
Non, et puis c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas gore du tout. Enfin, oui, il y a des, il y a de la violence, mais presque plus comme un film de guerre ou de guerre civile au final.
Oui, ça ressemble plus à ça, effectivement.
Donc, non, franchement, c'était vraiment une bonne surprise.
Ouais, c'est un film que j'avais, dont j'avais entendu parler quand il était sorti. Je me souviens de l'article que j'avais lu dans Télérama, mais que j'avais jamais vu parce que je crois qu'il devait pas être diffusé, il devait pas avoir une très bonne diffusion. Et j'ai donc quand tu l'as cité, j'étais plutôt content parce que tiens, ça va être l'occasion de le voir. Et c'est vrai que j'avais autour de moi des gens qui l'avaient vu et j'avais soit des gens qui aimaient, soit des gens qui aimaient pas. Enfin, c'était assez tranché comme avis. Et ben, bonne surprise. J'ai beaucoup aimé. Et alors, effectivement, comme ce que tu disais toi, dans Jack Reacher tout à l'heure, la scène du début me disait que ça pouvait arriver un jour ou l'autre. Et là, effectivement, pareil, quand on voit le début de ce film-là, on se dit mon Dieu, mais l'univers, le monde dans lequel on vit actuellement, peut.
Il ressemble déjà à ça, en fait, ça, le pire.
Tout à fait.
C'est une réalité en plus.
D'ailleurs, à un moment, il y a une scène dans le film que j'ai beaucoup aimé où on voit des noms de villes qui s'affichent. Donc, on voit Paris, on voit Marseille et d'autres villes européennes.
C'est peut-être au début.
Et puis, il y a marqué collapse, enfin, s'effondre.
Tout s'effondre. Ouais.
Alors que nous, en Angleterre, tout va bien. Et puis, les plans d'après, on voit des scènes où, au final, on se rend compte que ça va pas ça si va bien pas que ça. Et que,
bah, donc, l'Angleterre, c'est le dernier pays qui reste à peu près bien.
Mais je sais pas si
il y a un gouvernement.
Il reste encore une stabilité minimum.
C'est ça.
Ouais, mais on sait même pas si c'est pas une propagande du gouvernement, tu vois. Tu vois que l'Angleterre, tu sais pas trop.
Après, ça ressemble aussi un peu à une série qui était passée sur Arte, dans l'idée, hein. Qui était passée il y a quelques mois sur Arte, où on avait aussi ce principe, entre guillemets, d'un endroit protégé avec des gens qui travaillent, mais qui sont d'ailleurs pas forcément heureux. Et derrière le mur, l'équivalent des immigrés, en fait, dans le film, là, c'est quand même un thème qui ressort de temps en temps.
Moi, ce que j'ai aussi aimé, alors qu'il suit, je dois avouer, un peu sensible à la mise en scène ou à la technique des films, je trouve qu'il y a deux plans séquences Et moi j'aime ça, enfin j'avoue je suis faible, hein. On met un plan séquence dans un film et déjà le film il peut me plaire. Le premier plan qui est, alors qui est pas le plus gros je trouvais.
Il y en a trois,
ouais, sauf que je dois avouer que le...
Oui, il y en a un qui m'a marqué.
Moi le troisième je l'ai pas vu. Je l'ai vu sur Wikipédia, mais quand j'ai regardé le film, il m'a pas interpellé. Alors que la scène quand il y a la voiture là au début du film qui leur coupe la route et où ils partent en marche arrière en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et le deuxième qui est plus à la fin du film où justement on lui vole le bébé et il doit aller le chercher. Et là il y a tout, d'ailleurs le film est plus du tout la même chose parce que autant je trouve que dans la première partie on est dans une espèce de film d'anticipation dans un futur voilà proche, autant je trouve que la deuxième partie on est plus dans un film de guerre.
Bah, c'est plus de l'action.
C'est plus de l'action effectivement et toute la scène où il doit aller récupérer justement, où il essaye d'aller récupérer l'enfant qui est, alors cette scène est plutôt longue j'ai trouvé, enfin de mémoire, et j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien. Et c'est vrai que je repensais à...
Mais disons qu'elle met de la tension.
Elle met de la tension. Et en fait j'ai repensé à Birdman en fait, qui est un film pareil en plan séquence. Et j'ai repensé d'un autre côté à une série qu'on a vue il y a dernièrement, que j'avais une fois recommandée, qui était 19-2. Et dans le premier épisode de la deuxième saison, il y a un plan séquence d'un quart d'heure. Et je trouve que 19-2 et Le Fils de l'Homme montrent... C'est là où je trouve que le plan séquence fonctionne. C'est quand il y a une tension. Au final, chose qu'il n'y avait peut-être pas trop dans Birdman, il n'y avait pas trop de tension, mais effectivement quand on a l'impression d'être plongé en apnée en fait dans le film, se dire mon Dieu mais qu'est-ce qui va se passer, enfin on est pris,
un peu jeu vidéo,
on est pris avec les personnages, bah
il se planque, il lève et puis on découvre des environnements différents jusqu'à l'immeuble.
Quand tu parles de jeux vidéo,
je trouve que ça fait un peu ça.
Moi j'ai joué il y a un bout de temps à The Last of Us, je sais pas si les personnes qui ont conçu le jeu Last of Us ont vu le film ou ont lu le livre, mais c'est franchement c'est franchement inspiré, enfin quelqu'un un 40-50naire qu'on n'a plus rien à faire de la vie, qui se retrouve avec une gamine entre les pattes et qui doit l'amener d'un point A à un point B et il se lie d'amitié avec cette gamine.
Sauf que là, il n'y a pas la gamine.
Ouais. Non, mais ici,
je parle de
la mère.
Tu parles du livre, le livre, c'est pas
c'est ça, pas pareil. C'est pas pareil. C'est qu'ils ont peut-être dû voir le film parce que
ça
quand on a joué au jeu.
De jeux vidéo et
non, mais je trouve que quand on a joué au jeu, enfin, je sais pas, tu as joué, toi, je sais pas si t'as fait un rapprochement au jeu, mais moi, rapidement, je me suis dit, mais c'est fou les points communs qu'il y a entre ce jeu et ce film.
Il y a juste ce que t'as cité, le fait que ce soit un vieux qui en a plus rien à foutre de
ouais,
la vie.
Ouais, mais c'est déjà pas mal dans un monde un peu post-apocalyptique.
Après, c'est pas le même post-apocalyptique, quoi.
Dans
Les Fils de l'Homme, il n'est pas autant défoncé que celui dans Last of Us, quand même.
Oui, mais c'est quand même une fin de monde. Enfin, je veux dire, dans aucun des deux mondes, t'as envie de vivre.
Oui, c'est sûr.
En tout cas, le jeu vidéo, c'est après le.
C'est après
le
largement. Oui, non, mais est-ce qu'ils sont inspirés du film ou pas? Enfin. Et après, pareil, moi, après j'arrête. Une dernière remarque que j'ai bien aimé, c'est voir l'anglais, là, celui dont t'as eu du mal à citer le nom. Michael Caine, qui est pour une fois, moi qui ai l'habitude de le voir dans les films de Nolan. Je trouve qu'il, pour une fois, qu'il joue une espèce de baba cool, plutôt tranquille et la vie elle est belle, malgré le fait que ça s'effondre. Et d'ailleurs, c'est un peu une bulle d'air, je trouve, dans le film. Je trouve qu'il était à contre-emploi de ce que je connaissais moi. Alors peut-être qu'après, si on a vu sa filmographie,
je connais pas assez.
Il a fait des rôles comme ça plus souvent.
C'était la première fois qu'il fumait de la beuh pour un film.
Pour un film, ouais, non, mais je l'ai trouvé rigolo.
Bref, semblant de fumer de la beuh pour un film.
Ouais, on a bien compris que t'avais pas dit qu'il faisait semblant.
Non, mais j'ai trouvé qu'il était utilisé à bon emploi.
Alors, Seb, toi qui es celui qui est le plus mitigé, a priori.
Non, bah. Alors, il y avait tout pour me plaire dans ce film, les acteurs que j'aime bien, Pierre qui me le vend, donc c'était bien parti. Le concept de départ me plaisait énormément. Et après, je trouve ça m'a fait penser à La Route, que j'ai pas aimé, ou alors qu'un peu pareil, ce monde post-apocalyptique, faut aller d'un point A à un endroit, on sait pas si ça sera mieux, mais en théorie c'est mieux. Et c'est trop sombre, et moi il m'a manqué, je sais pas si c'est un retournement de situation ou quelque chose, mais je trouve que justement il se lie pas beaucoup d'amitié avec cette femme. Moi, le relationnel entre les personnages, moi il m'a manqué, quoi. Toi, tu parlais de Last of Us, moi je trouvais magique, quoi, la relation entre les deux, là, lui et la femme qui protège, je trouve pas qu'il y a un lien, je trouve que c'est très froid comme façon de l'emmener du point A du point B.
C'est lui qui est froid.
C'est lui en fait.
C'est
lui qui se protège.
Ouais, mais alors
passé.
Du coup, ça, moi, ça m'a manqué. Alors après, la réalisation, il n'y a pas de souci, hein, notamment la fin, je trouvais ça super bien filmé, mais je m'attendais à je sais pas, à la fin, avoir une. Je me dis, pendant que je regardais le film, je disais, c'est pas possible, il va se passer quelque chose qui va faire que le film va décoller. C'est ça, pour moi, le film, il a une idée de base. Ça se trouve, je préférais le bouquin d'ailleurs, j'en sais rien. Mais il manque quelque chose pour qu'il décolle. C'est-à-dire que c'est pas mal, hein, loin de là, mais je sais pas, il m'a manqué trop sombre, mais ça, c'est pas forcément gênant, mais trop sombre pour pas m'amener avec ce sujet-là de se dire qu'il n'y a plus un enfant et puis potentiellement il n'y a plus qu'une, je sais pas, j'espérais plus grandiose que juste de l'emmener à un point A, à un point B, en fait.
Et le bouquin, en fait, est-ce que par rapport au film, du coup, c'est la même histoire, c'est...
Alors, plus ou moins, avant de parler du bouquin, d'autres trucs que j'aime bien dans le film, c'est que ça traite, mine de rien, de sujets qui sont vachement d'actualité. Enfin,
alors, c'est peut-être ça aussi qui m'a déplu.
Tout le côté,
hein,
tout le côté avec les réfugiés, hein. Tout le côté avec le terrorisme, entre guillemets.
Ah, bah oui,
ah ouais, bah, finalement,
carrément,
maintenant,
carrément, non, mais,
non mais t'as raison, et je pense que c'est peut-être aussi ça qui a fait que j'ai pas trop aimé.
Après, dans le livre, bon, du coup, pour aller sur ce sujet-là, dans le livre, ces sujets-là, ils sont très différents. La partie terrorisme, elle est pas du tout présente, en fait. Je veux dire, on voit pas des islamistes qui crient à l'Akbar à un moment dans une zone où c'est en guerre civile. En fait, le film, il y a quasiment pas d'action, en fait. Il y a juste 2-3 scènes un peu choquantes, comme dans le livre, il y a beaucoup moins d'action, je veux dire. Il y a juste quelques scènes bien choquantes pour te rappeler que c'est un monde qui part en couille, mais il y a pas de longues scènes d'action dans le livre.
Et le méchant, il est un peu décrit comme ça. Hein,
alors le méchant, c'est pas le même, en fait. Le méchant, c'est pas le même. Le fameux, tu parles du Black, hein, le leader des résistants. En fait,
j'ai pas compris ce qu'il faisait dans le film.
Il y a pas ce groupuscule de résistants dans le livre. Ils sont que 5 résistants. Enfin, c'est même pas des résistants, ils sont juste 5. Et c'est un groupe qui s'est juste créé pour aider la fille. Et là, la fille, c'est pas la même, parce que la fille, c'est elle qui s'appelle Julianne dans le livre. Et c'est pas l'ex-femme du héros. C'est elle qui est enceinte, par contre.
Ah, d'accord.
En fait, il y a un autre rôle par rapport au le gouvernement, en fait, le cousin du personnage principal.
Oui.
C'est le leader du gouvernement, qui est une sorte de dictateur, en fait. C'est là où il t'explique qu'il y a le gouvernement actuel, il est à mi-chemin, enfin, il est même plus proche de la dictature que du gouvernement. Et c'est eux les méchants, mais vraiment, enfin, c'est vraiment lui le méchant, il a vraiment un personnage qui est vraiment bien dans le livre.
C'est plus le Black, quoi.
En fait, pour moi, dans le film, c'est juste que le Black, il est aussi méchant que le gouvernement. Je dirais pas qu'il
est méchant. Il n'y a pas de méchant, moi,
c'est qu'ils veulent juste utiliser ça. Pour avoir
moi je trouve que dans le film il n'y a pas de méchant.
Parce qu'autant le gouvernement tu peux comprendre, autant lui, j'ai pas compris son but.
Moi je trouve qu'il n'y a pas de méchant. C'est juste une guérilla et il veut, il a un but à atteindre et il pense qu'il a besoin d'un bébé.
Ouais, mais j'ai pas accroché ce qu'il ferait avec cette femme et cet enfant.
Parce que je pense que vu que c'est le seul. Quelque part, t'as le pouvoir parce que.
Bah oui et non, parce que c'est un pouvoir qui reste très.
Est-ce que c'est pas le père du gamin? Non. Enfin, il y a un moment, moi, je me suis posé la question. Parce qu'au final, on sait pas qui est son
père. Ah, on sait pas qui est le père.
Non, mais on sait pas, non, mais.
Je sais pas
pourquoi il veut être avec elle, quoi.
En fait, il
veut
un,
pas
un...
être avec elle, il veut piquer le gosse.
Oui, mais on sait pas pourquoi. Oui, non, mais.
Non, mais en fait, il y a justement autour de la femme qui est le père. C'est qu'autant que dans le livre et dans
la
le.
La femme
dans
qui est le père.
La femme qui est le père du gamin, oui. Je veux dire. Le sujet là-dessus, c'est que autant dans le film et dans le livre, c'est qu'elle explique elle-même, elle sait pas en fait, elle a couché avec tellement de mecs qu'elle sait pas en fait qui c'est le père. Et c'est là où justement ça met à mal un peu cette. Enfin, dans le livre, ils en parlent plus de ça, c'est qu'ils font plein de tests de comment dire, sur le sperme des hommes pour savoir pourquoi il y a des problèmes, tout ça, pour essayer d'en trouver un qui soit fertile. Et le fait que finalement le premier enfant qui arrive, c'est une femme qui couchait avec plein de mecs, c'est une femme qui était. Puis quand on apprend qui c'est vraiment le père dans le livre, on l'apprend, c'est quelqu'un qui avait des problèmes mentaux, donc c'est des gens qui étaient un peu les réfugiés qu'ils essayaient de rejeter dans le film. Bah lui, c'était un malade mental ou je sais pas quoi, qu'ils essayaient de refuser. En fait, ils rejettent pas les mêmes personnes entre le livre et le film, et on apprend que le père, c'est quelqu'un qui était pas vraiment dans le moule du gouvernement.
Un peu la morale de le sauvetage peut arriver de là où on l'attend pas.
C'est
quoi.
Ça, ouais. C'est ça la morale vraiment du film, c'est que finalement,
c'est dommage que ce soit pas abordé dans le film, ça.
Bah, c'est abordé différemment en fait. C'est abordé différemment avec le côté les réfugiés en fait, qui est pas du tout le même dans le livre.
Je trouve l'une des plus belles scènes du film, alors c'est pas la fin du film, donc comme ça je peux le raconter, je vais pas spoiler, mais. À un moment, donc, il y a les gens entendent un bébé pleurer, et donc forcément, comme ça fait des années qu'ils n'ont plus entendu pleurer, il n'y a plus un bruit, il n'y a plus rien, il y a juste les cris de ce bébé-là. Il y a en plus, ça se passe durant une scène de guerre, en fait. Donc l'armée qui était là arrête de tirer, en fait, et le personnage principal se déplace avec son bébé dans les bras on entend ces cris, les cris de ces bébés-là, et enfin moi, honnêtement, c'est une scène qui m'a poigné. Un peu comme un messie, c'est un peu biblique d'ailleurs, à un moment-là, cette scène du film. Il traverse donc d'abord les réfugiés, après il traverse l'armée, et on voit une espèce de plan, alors je sais pas comment dire, il s'avance face à la caméra, là en même temps la caméra recule, donc on voit tout ce qui se passe derrière lui. Là on est dans une espèce de moment de grâce au final, on se dit ça y est, la vie est belle, elle va reprendre, et d'un coup il y a un type qui tire un coup au bazooka dans l'immeuble au fond, l'immeuble explose, l'armée qui reprend, et la guerre qui est repartie comme... Et on se dit ouais, il y a eu un moment de grâce pendant 5 secondes, et au final, il y en a un qui a tout détruit, et puis au final, ça se trouve, on est peut-être capable que de faire ça, de se détruire les uns les autres, et je dois avouer que cette scène, moi, je l'ai trouvée super belle. Enfin, elle m'a bien marqué.
C'est pas un film ultra optimiste, par
non.
contre.
Non, mais c'est un très beau film.
On va pas regarder un soir de déprime.
Sauf non. Ouais, la morale, c'est de dire que, de faire une image, une analogie avec les problèmes actuels, le problème de réfugiés et tout ça, de terrorisme, c'est que finalement, même s'ils disent qu'il y a des problèmes, le bien peut venir d'eux, enfin la solution peut venir d'eux, quoi, en fait.
Ça part même, il y a une scène, je me souviens d'une scène où le héros est dans le bus, dans un bus qui doit l'emmener dans un camp, t'es même plus dans nos problèmes actuels, alors je suis peut-être pas au courant de tout ce qui se passe actuellement, mais.
Ah, c'est amplifié.
Mais t'es carrément dans un régime nazi, tu vois les réfugiés qui sont arrêtés, après qui sont parqués, qui sont déshabillés, qui sont fusillés, enfin je veux dire,
c'est la réalité amplifiée, quoi.
C'est ça, ouais, ça fait froid dans le dos, cette scène au cinéma, enfin, en plus, ça défile vraiment comme un. Je sais pas, enfin, moi la mise en scène dans ce film est franchement super bien. Enfin,
à un moment, t'as même des tags entre guillemets nazis en clin d'œil, entre guillemets, quand ils arrivent justement dans le camp où il y a tous les réfugiés qui sont balancés là. À la fin, t'as des tags de. Enfin, pas la croix gammée, je veux dire, mais des phrases en allemand de tout
ce qui se passe
dans des camps de réfugiés. Dans les camps de.
J'ai vu aussi. Ouais. Moi, j'ai vu 2-3 fois, il y avait des tags, il y a marqué Uprising. Alors, ça m'a fait penser à la chanson de Muse. Ouais.
T'en as des comme ça, mais t'en as d'autres en allemand aussi.
Ah ouais, je connais pas l'allemand, alors j'ai... Mais oui, à un moment, on voit les drapeaux français qui passent.
Un autre truc qui m'a plu aussi, c'est le réalisme permanent du film, en fait. C'est qu'il n'y a pas de faux pas de dire « Ah non, mais là, c'est mal fait. »
Oui, tout à fait. Ouais.
Et ils sont tellement... Ils sont vraiment à fond sur tous les détails. Du genre, les armes qu'ont les militaires anglais, c'est des armes qui étaient en conception au moment de la réalisation du film, qui devaient devenir les armes officielles des soldats anglais.
D'accord.
Ça a été abandonné entre temps, c'est devenu des armes de concept, mais c'était vraiment les armes qui étaient censées être les armes du futur. Pareil, les avions qu'on voit brièvement bombarder à un moment le
camp. Cette scène, elle est violente aussi, je trouve.
Et en fait, c'est vraiment les avions, les futurs avions de l'armée, enfin ceux qui sont censés avoir en 2020. Donc,
c'est marrant parce que tu vois, tu parles des armes qui sont les futures armes, et par contre, je trouve qu'au niveau des vêtements, ça fait super vieux. C'est peut-être moi c'est ça qui m'a fait bizarre, c'est le décalage, tu vois, où t'as plus l'impression d'être qu'il y a 30 ans en arrière que dans le futur côté vêtements.
Oui, mais
pour imposer le style de presque l'homme mourir, enfin en train de mourir,
oui,
quoi.
Ouais,
dire
ouais.
Tout est vieux, quoi.
Moi, ce que j'ai aimé, le détail, alors pareil, où il doit. C'est pour ça, je crois que j'ai cru qu'il retournait chez ses parents, parce qu'à un moment il essaye des choses, son père, on va dire, parce qu'à un moment il essaye des chaussures, en fait. Qui sont plus à sa taille.
C'est pas son père.
Non mais j'ai cru en fait, c'est pour ça que je pensais qu'il était dans sa chambre et qu'il avait gardé ses paires de chaussures d'ado et que comme il avait plus de chaussures, il essayait d'en retrouver une. Il en retrouvait une qui lui allait et la seule paire qu'il lui trouve c'est une paire de tongs et il fait quand même tout le film en tongs. Et d'ailleurs il y a 2-3 fois.
Il mange plusieurs fois.
Il fait référence et non enfin. Franchement, c'est un film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un film à voir.
Et t'as encore des choses à rajouter ou on passe aux notes?
Je sais plus, on va sûrement encore d'autres trucs à dire, mais je pourrais parler un quart d'heure encore, donc peut-être que je vais m'arrêter là.
Ouais, pas assez trouvé assez divertissant, du coup.
C'est sûr que c'est pas un film divertissant,
non, c'est pas ultra divertissant.
Ouais, c'est très sombre, quoi.
Alors, une petite note, Pierre.
Moi, je mets 9. Facile.
Et toi, Sylvia?
Moi, je mets 8.
Moi, je mets 9.
Moi, je mets 6.
Ah, je pense que nous avons, à moins que ce soit le film d'Antoine, mais là, on est bien parti pour être le premier film de ce podcast. Oula.
Un film, on est entièrement d'accord, Antoine et moi, c'est quand même rare. Hein.
Non, ça arrive souvent.
Et on va passer à notre dernier film pour ce podcast, c'est celui d'Antoine, et c'est Le Bon, la Brute et le Cinglé.
Alors, Le Bon, la Brute et le Cinglé, un film de 2008. Un film donc coréen, réalisé par... alors excusez-moi, je vais écorcher tous les noms, mais... alors, Ji Wong Kim. Donc pour les fans de Schwarzy, c'est celui qui a fait Le Dernier Rempart. Je sais pas si, oh. si vous l'avez vu.
Non.
Non, aucun de vous deux.
Même moi, je l'ai pas vu. Qui a pas dû voir vraiment qui l'a vu.
Non.
Alors, si je l'ai pas vu, il y a pas de
chance. Alors on retrouve en acteur, alors attention, Ji Wong Woo Siong qui joue Le Bon, donc le chasseur de primes, Lee Byung Hung, la brute, et Sang Kang Ho, le cinglé. Voilà, alors d'après ce que j'ai pu lire sur...
une fois.
Non.
Tu peux ne plus utiliser les acteurs.
C'est ça, on va utiliser...
On va dire Le Bon, la Brute et le Cinglé.
C'est ça, hein. on va utiliser leur pseudo. Alors d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est des mégastars en Corée, mais voilà, ça dépasse pas, je pense, les frontières coréennes. Alors, je vais vous résumer le film. Alors, dans les années 30, en Mandchourie, alors la Mandchourie est une région qui se trouve en Chine à la frontière nord-coréenne, et qui, à l'époque du film, est occupée par l'armée japonaise. Un homme d'affaires vend une carte au trésor à un haut dignitaire japonais, et en même temps, il paie la meilleure gâchette du pays, donc la brute, pour lui voler la carte afin de la récupérer. Donc lors de l'attaque du train organisée par la brute, un voleur de la petite semaine, donc le cinglé, se retrouve en possession de la carte après avoir volé le japonais, sans savoir ce qu'elle représente et ce qu'elle est réellement en fait. Et le cinglé va donc se retrouver poursuivi par la brute, qui lui est poursuivi par le chasseur de primes, le bon. Et tout irait pour le... Enfin, lors de l'attaque du train, donc il y a une tribu indienne une tribu locale. Une tribu locale qui...
Il y a l'Inde, pas trop.
Non, il y a une tribu...
quelques centaines de kilos de centaines, voire plusieurs milliers.
Il y a une tribu locale qui assiste à la scène, donc qui se met à la poursuite de la carte, donc à la poursuite du cinglé, et un peu plus tard dans le film, l'armée japonaise se met à poursuivre tout le monde. Voilà. Donc voilà, donc tout le film est une énorme course-poursuite. Alors pourquoi est-ce que je voulais proposer ce film? Parce qu'en fait, je l'avais vu, j'étais allé le voir au cinéma. Et c'est surtout que, pour moi, souvent, l'été était synonyme de blockbuster. Alors maintenant, c'est vrai que c'est un peu faux, parce qu'il y a des films à gros budget qui sortent tous les 3 mois. Mais à cette époque-là, à l'époque où le film a été fait, en Corée, c'était l'un des films les plus ambitieux, qui a coûté, alors si on ramène en dollars, 17 millions de dollars. Donc c'est clair que pour un blockbuster qui tourne maintenant autour des 200 000, c'est plutôt ridicule, mais il a réussi à... Voilà, ils ont réussi en se disant qu'ils ont voulu rendre un hommage donc, au cinéma, on va dire, au western américain.
Et western coréen, parce qu'il y a eu des westerns chinois, coréens, de Mandchourie à l'époque, en même temps que les westerns américains.
Oui, mais bon... Dans l'imaginaire collectif qui reste, j'ai envie de dire, c'est les westerns américains.
Dans l'imaginaire occidental, oui.
Occidental, ouais. Puis bon, vu le titre du film, alors je prononcerai pas le titre du film en coréen. Parce
mais
que
c'est la même chose.
J'en sais rien. J'ai pas réussi à savoir si c'était une traduction purement fanboyisme. Mais bon, après, quand on regarde la construction du film, notamment la scène finale, on peut pas s'empêcher de penser au film de Sergio Leone. Enfin, c'est construit pareil. Donc moi j'étais allé le voir au cinéma, j'avais été par un collègue qui allait voir plein de films bizarres, et j'avais été agréablement surpris, et je me suis dit, tiens, voilà, c'est l'occasion de le proposer, parce que je pense que peu de gens l'ont vu ce film-là.
Ah oui, ça c'est sûr.
Peu de gens ont même entendu parler de ce film-là, et ça faisait en plus plusieurs temps, quand on était entre nous, qu'il y avait, je me souviens, 2-3 fois Seb qui dit, j'ai plus rien à regarder, je fais, tiens, regarde ce film, et puis bon, il a toujours refusé. Donc je me suis dit,
temps,
à travers le podcast
proposé par toi.
Alors oui, alors c'est un film qui a été proposé effectivement à Cannes, mais qui a été proposé hors sélection. Donc après, je veux dire, Star Wars, il a été proposé aussi hors sélection. Hein. Donc
ouais,
tu vois, ça veut pas dire grand chose. Voilà, donc j'ai fait mon petit résumé. Et...
Non, j'essayais de trouver le titre juste pour voir s'il y avait 3 mots en coréen, pour voir si dans le titre on retrouvait la même chose. Sauf que vu que c'est un alphabet que je ne sais pas lire,
va écrire du coréen avec ton clavier.
Il y avait 3 mots.
Si vous n'êtes pas fan
de table, tour de table rapide.
Alors, clairement, c'est pas un film pour moi, mais parce que j'aime pas les westerns, donc déjà c'était mal engagé. Après. Du coup j'ai trouvé ça un peu long mais pas trop quand même, donc je m'attendais à pire au final. C'est toujours pas un film pour moi, c'est clair, je le regarderai jamais une deuxième fois, mais
faut jamais dire jamais.
Écoute, ou alors faut être forcé, hein. Mais je dirais pas que c'est un mauvais film, c'est juste que moi j'aime pas ces films là quoi, c'est tout. C'est comme Pierre avec le masque de Zorro, moi ça m'a fait le même effet, c'est pas un mauvais film mais c'est pas pour moi.
Moi je suis mitigé en fait, il y a des trucs bien, des trucs pas bien, je trouve, et je dirais moyen plus, mais plus que ce que j'ai dit pour La Part des Anges. Donc voilà, entre moyen plus et bien, quoi, je dirais.
Moi, j'ai eu deux avis en voyant ce film. Donc au bout de la première moitié, je me suis quand même pas mal ennuyé. Mais la deuxième partie, je l'ai trouvé tellement bien qu'au final, ça reste une très bonne surprise. Et j'ai bien aimé ce film, ouais. Même si, voilà, on va en reparler, je suis plus réservé sur le début.
Alors en fait, moi, ce qui m'a surpris quand j'étais voir ce film, déjà, je m'attendais, je dois avouer, déjà avec un nom comme ça, je m'attendais à avoir une vieille parodie de Western Spaghetti. Et en plus, je sais pas, alors peut-être parce que j'y allais avec mes clichés, mais je m'attendais aussi à aller voir une vieille parodie, voilà, avec très peu de moyens. Et déjà, donc, première agréable surprise, je trouve que le film est super bien foutu. Enfin, c'est super bien produit, les scènes d'action, on sent qu'il y a du budget. Après, c'est vrai que si on n'aime pas le genre, c'est vraiment une course-poursuite du début jusqu'à la fin. Donc,
non, mais par exemple, vous avez trouvé ça drôle à des moments?
J'ai souri, j'ai pas trouvé ça drôle.
J'ai souri sans éclat
de
rire.
Une fois de plus, c'est pas une comédie. Donc,
Non, mais il y a des scènes qui sont quand même censées être faites, je pense, pour que au moins tu souris à défaut de rire.
Moi, à part la scène où il met un scaphandre pour se protéger des balles, ou alors il y a deux trois scènes comme ça, mais sinon c'est pas un film.
C'est pas un film qui m'a fait rire.
C'est pas un film qui fait rire. Hein. Enfin...
Non, mais c'est pas que ça fait rire. C'est enfin, en fait, j'étais pas au début, je l'ai regardé en mode sérieux et j'accrochais pas. Et après, je dis bon, je lâche un peu et je regarde. C'est moi plutôt, j'ai essayé de le voir plus comme une parodie en fait. En fait, entre la parodie et les clins d'œil. Bien assumé, mais ça marchait en fait plus comme une. Pour moi, je trouve que ça marchait plus comme une parodie où voilà, ils ont essayé de prendre les trucs bien, de les accentuer et d'essayer de faire rire entre. Enfin, pas rire, mais de pousser les trucs à l'extrême tout en sans être trop sérieux, mais ça marchait en fait.
Après, je pense que le film, moi, ce qui m'a choqué quand je l'ai vu la première fois, et c'est vrai que c'est une période qu'on voit pas beaucoup au cinéma, au final, c'est une espèce d'entre-deux. Moi, je me souviens, le seul autre film dont je pourrais citer qui se passe comme ça, c'est... je ne sais même plus le nom du film, c'est un film de Sergio Leone, le moins connu de tous, de ceux qu'il a fait, où on se retrouve à une période où... Parce que le film commence comme un western... où il y a des chevaux, il y a des fusils, on retrouve tous les codes du western, mais d'un coup on voit des véhicules, on voit des...
Il
y a plein d'anachronismes, ouais, c'est ça, était une fois la révolution, et on se dit, mais mince, ça se passe à quelle époque? Et effectivement, ça se passe à la fin, on va dire, de la période à cheval et au début des véhicules motorisés, donc tout là, en plus, le film est construit un peu comme ça aussi, où l'attaque du train, la première scène, on se croirait clairement dans un western, et après, il y a des éléments qui viennent s'immiscer dans le film, on se dit, mais à quelle époque ça se passe, enfin, effectivement. Et moi, ce film, je le placerais pas comme une parodie comme OSS, par exemple, pour moi, qui est une parodie du film d'espionnage, mais plus à la limite, alors, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais plus comme le film de super-héros, je sais pas pourquoi je parle de super-héros tout le temps, non, le film d'espionnage qu'on avait vu l'année dernière, mince, je me souviens plus comment
c'est. Ils sont des espions ?
Non, le film avec ton copain anglais, là.
Colin Firth.
Kingsman.
J'ai plus l'impression de retrouver, d'être un peu dans le même genre que ce film-là, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans l'hommage, mais qu'il y a ce je ne sais quoi.
Ouais, c'est ça, c'est l'hommage. Hein.
C'est un hommage. Il y a ce je ne sais quoi qui fait qu'on vire. Alors, dans Kingsman, à la fin, on virait vraiment dans le grand n'importe quoi. Hein. Oui, mais là, je trouve qu'on
là,
est.
Ça se
on
veut
est...
plus sérieux quand même.
Ça se veut plus sérieux tout en étant un peu.
Je trouve pas.
Non, mais par rapport à Kingsman.
Oui, mais.
Kingsman, c'est la surenchère.
Je pense que là.
C'est pas un film sérieux, je trouve quand même, là. Le bon, la brute et le cinglé.
Non, c'est clair que c'est pas un film
sérieux. Je sais pas si c'est un film sérieux. Je vois pas. J'arrive pas à voir ce qui donne l'illusion, à part à la scène où il met un casque de plongée pour se protéger.
Il y en a sans arrêt. Quand t'as des gros plans sur les coupes, la coupe japonaise qu'il a, quand ils font des. Enfin, je sais pas, tout en fait. Comme c'est filmé à des moments, t'as des gros plans. C'est exagéré en fait. Sans être trop vulgaire, c'est exagéré dans le style des westerns de l'époque pour dire ouais on fait ça mais à fond quoi et on l'assume. Pourtant c'est bah voilà, je sais pas, c'est moi pour moi
non
c'est
mais
pas
oui il y a un côté exagéré, non mais là-dessus t'as raison,
c'est tout exagéré,
ouais,
en fait
exagéré. Moi je pense que je reste convaincu que c'est le titre qui fout le bazar. On sait pas trop ce qu'on va regarder à cause du titre. On a l'impression d'avoir une parodie.
Oui,
et en fait,
le dernier
mec...
mot, quoi.
Mais
si,
oui, mais
tu sais que tu vas regarder. Tu sais, enfin, moi, quand, avec un titre comme ça, je vais regarder un western. Oui, et là, de ce côté-là, on n'est pas déçu. Je veux dire, ça
mais
fait.
Tu dois avoir des westerns, t'en as plein de styles.
Oui, hein. Mais après, qui fait penser à du Sergio Leone. Enfin, je veux dire, tu vas pas appeler un film comme ça si tu fais.
Oui, mais le fait qu'il y ait le cinglé final... à la fin, effectivement, tu sais pas trop. Tu dis, ah bah je vais rigoler, ça va être une parodie. Puis finalement, tu dis, bah non, je rigole pas beaucoup. Alors qu'en fait, c'est. Moi, je pense que c'est très mal traduit, quoi. Le titre est
non,
vraiment
mais le titre,
mauvais.
Le titre est peut-être pas, et effectivement. Enfin, de toute façon, c'est comme le film Bon Baiser de Bruges. Un film comme ça, quand tu le regardes, tu sais pas ce que tu vas voir, effectivement.
Là, ça ment sur la marchandise.
Ouais, je suis d'accord, sauf que le film. Enfin, je sais pas, moi j'y allais avec. Enfin, je me souviens quand j'ai été le voir au cinéma, j'y allais avec tellement d'a priori qu'au final j'ai été heureux. Et en le revoyant, je me suis dit non, mais le film il est super bien foutu. Et le seul reproche que je ferais, c'est parce que c'est quand même que des scènes de poursuite, hein, des scènes de bataille, que ce soit dans les villes. Enfin, ça commence dans un train, dans les villages, dans la plaine. C'est juste un moment, il y a deux, trois scènes où il explique justement, il se retrouve dans une espèce de barre d'opium, je sais pas trop ce que c'est, où il explique justement le conflit qui se passe à ce moment-là en Mandchourie. Alors c'est bien pour, j'ai envie de dire pour nous, parce qu'on connaît pas du tout, enfin moi je connaissais pas du tout l'histoire, cette histoire-là. Mais c'est vrai que ça donne un temps mort. Et puis bon, après le film repart jusqu'à la scène finale qui fait effectivement. Alors, on cite depuis le début le Bon, la brute et le truand, mais dans la deuxième partie, je pense, la partie
on,
que t'aimes.
On le cite, mais ça ressemble pas vraiment.
Finalement. Non, c'est la scène de fin. Après, t'as trois personnages. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Moi, le film m'a aussi énormément fait penser, notamment pour la dernière partie, et je pense que c'est ce que Sylvia et Seb ont aimé, à Mad Max Fury Road. Cette espèce de course-poursuite débridée dans le désert, où. Tout le monde est là. Alors là,
enfin,
y a tout le monde.
Ça dure 20 minutes. Quoi.
Oui, c'est non, mais c'est sûr que c'est pas Mad Max Fury Road. Mais je veux dire, à un moment, il y a une scène où on voit, ils arrivent près d'une espèce de pont en pierre qui se fait exploser pour éviter que
un
les.
Un classique quand même.
Alors c'est peut-être un classique, j'en sais rien, mais dans Mad Max Fury Road, il y avait la même. Enfin...
Oui, mais c'est parce que Mad Max emprunte aussi à d'autres codes, aux codes
donc,
de
je
western.
Sais pas.
Hein.
Alors je sais pas si cette scène-là a été. Je pense que cette scène-là a certainement été piquée à d'autres, mais c'est vrai que. J'aurais aimé savoir si le alors peut-être que j'apporte plus d'aura qu'à ce film, hein, ça se trouve au final personne ne le connaît et ça reste comme ça. Mais c'est vrai que quand j'ai vu cette scène-là, j'aurais aimé savoir si George Miller, le réalisateur de Fury Road, l'a vu et s'en est inspiré, ou peut-être que ça, les deux ont la même influence, un film que j'ai pas vu.
Dans
je sais
des
pas.
Films style Star Wars, tu les as aussi ces trucs-là, non? De on fait péter une arche et t'as un avion qui est passé par exemple et l'autre qui passe.
Non, mais là c'est pas pareil, c'est juste l'armée qui a arrêté. Enfin, c'est étrange parce que les décors sont les mêmes. Enfin, genre, c'est une course-poursuite,
c'est
tout pareil. Il y a quand même.
Dans le désert, c'est. Ça joue,
il y a quand même énormément de similitudes avec Fury Road sur cette scène-là. Enfin, la scène de la poursuite dans
mais
le désert.
Mais je pense qu'il y a plein de westerns qui prennent ça
peut-être,
aussi.
Peut-être, peut-être. Après, j'ai pas vu assez de films pour voir d'autres influences. Mais d'ailleurs dans les bonus d'ailleurs je sais pas si beaucoup de gens vont acheter le Blu-ray, mais généralement quand on regarde les films pour les podcasts, souvent on achète les DVD ou les Blu-ray, et c'est vrai que quand, alors pas toujours, mais quand t'as un film que je conseille, généralement je regarde les bonus, et là le bonus dure 1h30 donc il est très très long, et pour les fans justement de technique, ils montrent vraiment tous les plans, comment ils les ont travaillés, comment ils les ont filmés, et je trouve ça super intéressant. Alors que des fois, dans certains films, on a droit aux bandes annonces et aux interviews des acteurs qui disent qu'ils ont aimé tourner dans le film. Et je, non, franchement, moi, en le revoyant, j'ai trouvé que c'était quand même un super film.
Moi, j'ai bien aimé, comme tu disais, donc la scène de la fin, la scène de poursuite de la fin, qui était bien faite et qui était pas mal. Par contre, il y a quand même d'autres scènes d'action plus du début du film qui, moi, m'ont choqué. Parce que justement t'avais un truc que pourtant je pensais qu'Antoine tu n'aimais pas, c'est des moments d'action où la caméra bouge tellement vite, où tout se passe tellement vite que t'as pas le temps de voir vraiment ce qui se passe, comme s'ils essayaient de cacher la misère, et notamment la scène où ils se battent dans l'espèce de bar plutôt au début là, enfin l'hôtel pardon, c'est pas un bar, c'est l'hôtel là où il y a le cinglé il est, et là t'as les autres qui arrivent et t'as une scène d'action ici qui dure peut-être 5
ils
minutes.
Attendent devant la porte.
Alors peut-être
là.
Que
ouais,
celle-là.
Puis, non, mais après, en fait, non, ils sautent entre les étages.
Celle-là,
en fait,
celle-là, c'est
cette scène-là, j'ai trouvé vraiment pas terrible.
C'est peut-être,
en fait.
Effectivement, je dois avouer qu'en le revoyant, c'était l'une des scènes que j'avais oubliées. Mais moi, je sais que par exemple, il me restait en mémoire l'attaque du train, la première scène que j'ai trouvé super bien.
Moi, elle m'a pas marqué celle-là.
Moi, je l'ai
trouvé
super
assez
bien.
Basique.
Après, on retrouve la scène où la ville, l'espèce de ville fantôme, là où il pleut, sera attaque. Et après, la scène à la Fury Road à la fin du film et le duel final. Mais j'avoue que cette scène-là, oui, je dois avouer que c'est pas la plus, c'est peut-être pas la plus impressionnante.
Un petit mot à rajouter ?
Non, bah,
fleurs,
là où ils
fleurs,
ont
non.
Comment ?
Fleurs, cinglés.
Non, là où les bruits des flingues. Par contre, ils avaient que des pétards, je pense, hein, parce que les bruits sont
pas
terribles.
Choqué,
le bruit n'est pas terrible. Non. Je dirais heureusement qu'il y a le cinglé, même si j'aime pas son, je trouve que c'est mal traduit et que c'est pas ça, mais parce que c'est loin d'être un cinglé, c'est juste qu'il est... il arrive à être marrant.
Bizarre.
Il est bizarre, ouais, le titre anglais effectivement, il est un peu mieux, ouais, il est
après,
bizarre.
Oui, mais le cinglé, le titre, si tu restes bloqué sur le film.
Et bah oui, mais
titre,
ça joue... moi ça a joué au début et.
C'est comme les évadés quoi.
Ouais,
oui, c'est... mais c'est bon, il y a un problème de titre après le film.
Oui, mais ça
dedans,
joue sur le film un peu pour moi. Enfin bon.
Ouais.
Et, mais lui effectivement il amène quelque chose parce que les deux autres j'ai trouvé qu'ils amenaient pas grand chose et c'est lui et même dans la poursuite c'est lui, c'est à dire que c'est lui qui amène tout le temps, c'est à dire que pour moi le film il repose sur lui.
Moi j'ai bien aimé la brute.
Il repose.
Autant le chasseur de primes, on le voit pas beaucoup, je trouve.
Bah, le chasseur de primes, sa scène d'action, elle est bien à la fin quand il a cheval qui remonte tout le, justement,
oui,
ce côté. C'est... Mad Max, c'est bien parce que c'est ses scènes d'action qui sont bien avec lui. Mais le personnage, il est.
Non, le personnage.
Il est pas intéressant non plus. La brute, je trouve pas très intéressant.
Ah, non, la brute, moi j'ai bien aimé.
Et finalement, c'est le cinglé qui fait que le film, il est bon, quoi.
Donc, moi, j'ai bien aimé la brute au début du film quand
mais...
il est
dans... Ça repose sur lui, moi.
Les personnages sont quand même pas hyper développés, de toute manière.
Non,
mais
c'est
pas
que
ça repose.
Mais c'est pas là-dessus que ça repose, oui. Enfin, c'est une course-poursuite avec des scènes d'action.
Non, non, mais moi, ça reste une très bonne surprise.
Il y a pas de scénario. Le scénario, il tient sur une carte au trésor.
Mais c'est pas des films à scénario.
Il y a plein de films, il y a pas, tu sais, les westerns.
Moi, il est une fois dans l'Ouest, qui est un de mes plus grands westerns. Le scénario, il tient sur un post-it, au final. Mais il est pourtant, je trouve ce.
Pour être fan du genre.
Plus grand post-it que celui-là encore.
Alors, tu prends, c'est quoi le dernier western que j'ai vu, c'était les 12 salopards. C'est pareil, le scénario, ils se retrouvent dans une maison, ils s'entretuent tous.
En tout cas, moi, ça me donne envie presque des fois de voir d'autres films asiatiques.
Les 8 salopards, tu voulais dire, non ?
Non, je sais plus combien ils étaient, 8. 8 ou 12.
De
non,
quel c'est film tu parles, Tarantino,
Tarantino.
Oui, c'est, ils sont 8.
8.
C'est hateful.
Bref, bon, bah voilà. Ça t'a convaincu d'aller regarder des films asiatiques, c'était donc...
Ouais, vrai, non, ça m'a donné... Ouais, oui, oui. Parce qu'ils savent faire des bons films.
Après,
aussi
y a
d'action.
Peut-être, est-ce qu'il y a aussi, quand on regarde un film comme ça, qui est quand même purement coréen, même s'il fait référence, on va dire, enfin pour moi, il fait référence aux films occidentaux, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de code ? Alors, c'est, moi, c'est pareil, j'en connais pas beaucoup.
Celui-là, enfin,
de code. De...
Mais je sais pas, est-ce qu'on connaît les codes des films asiatiques, tu vois ?
Code Konami, non ?
Non, mais. Code.
Non, bah
moi, parce que les films asiatiques, ils ont des codes qui sont différents des.
Justement, moi je trouve qu'on parle beaucoup de la partie western et je trouve qu'on voit quand même l'influence des films d'arts martiaux quand même dans ce film. Même si elle n'est pas non plus aussi assumée que la partie western, t'as quand même des combats où t'as des mises en scène.
Ah, ils sont très
codes avec les bambous là.
Par exemple, quoi, ces trucs-là.
Ouais,
et même, c'est justement les scènes où tu vois le. Bah justement, la partie du train où tu vois la brute arriver, où tu vois le bon arriver, où t'as cette scène où tu vois le personnage. Et t'as un zoom dessus, je trouve que c'est vachement asiatique en fait cette façon.
Mais
de
non, mais.
Puis là,
c'est vrai que. Le
cheveu a un peu
accéléré.
La coupe de cheveux.
Accéléré ouais, qui arrive sur le perso, c'est vrai que.
Non, mais le. Effectivement, la brute, elle a un côté dans son design très asiatique. À la limite, moi, je l'aurais vu dans un Final Fantasy, tu vois. Je l'aurais bien vu dans un Final Fantasy, ce personnage-là. Mais c'est vrai que. Est-ce que. Parce que, pareil, il y a un moment. Alors, là, ce film-là, malgré le fait qu'on l'ait en Blu-ray, on l'a regardé en VF. Mais il y a un moment. C'est pareil, chose que nous, on connaît.
Qu'il fallait pas, parce que les doublages, des fois.
Ouais, je reconnais, mais c'est pareil, doubler des asiatiques, c'est soit tu prends l'accent asiatique et là tu fais cliché voire raciste, mais là c'est à dire que t'es obligé de doubler tous les personnages avec l'accent asiatique. Enfin non, mais je pense que ça doit être difficile à doubler. T'as autant doubler un américain, tu sais très bien qu'un américain, enfin, on entend qu'il peut avoir la même voix que nous, mais un asiatique, quand tu prends un asiatique dans un film américain, il a l'accent asiatique. Donc,
mais attends,
oui, non, mais attends, mais si tu veux, on est formaté, donc là tu vois un film, et je pense que là où aussi c'est pareil, mais c'est, je pense, notre manque de culture de. Enfin, en tout cas pour moi, de cette partie-là du globe, c'est qu'à un moment, ils se parlaient, et ils disaient « Ah, mais on doit se comprendre !» Et donc peut-être qu'en VO, ça ressortait mieux, sauf qu'en VF, ils se comprenaient tous, donc c'est toujours à... Moi, je sais qu'il y a 2-3 scènes, ça m'a un peu choqué.
Ça m'a pas marqué.
Parce que je me dis « Mince, mais ça se trouve en VO, ou alors peut-être... »
Tout le monde l'a regardé en VF, du coup.
Oui, oui. Ouais.
Genre, ça se trouve, c'est des régions du monde où ils parlent peut-être pas la même langue, mais ils peuvent se comprendre quand même, c'est des mêmes dialectes, enfin, j'en sais rien. Et c'est vrai que peut-être que si il y avait une meilleure culture de cette région-là du monde, peut-être que ça aura... Ouais, j'aurais peut-être compris d'autres choses. Si
c'était trilingue, français, chinois, coréen, peut-être que tu l'aurais regardé en
japonais aussi.
Japonais, pardon, aussi.
Une petite note ?
Là.
Bah, moi, je vais lui mettre la note parce que je le pense vraiment, mais je vais lui mettre 9.
Bim.
Seb.
Je vais lui mettre 8.
Non.
Si.
Tu mets 8, toi ?
Ouais, parce que au final, moi, la fin, j'aurais envie de le revoir, ce film. Et 8, pour moi, j'ai envie de revoir, c'est au moins un 8, quoi.
Moi, je vais mettre 6,5.
Moi, je vais mettre 6. Bon, on a fait nos 4 films. Et c'est Pierre qui gagne avec quand même une moyenne de 8 sur 10. Donc voilà, il faut aller voir le film de Pierre en premier.
Bon, oui,
comme Allociné, je crois qu'il a 4 étoiles en plus. Donc je crois qu'on est...
On va passer...
avec Allociné, quoi.
On va passer à nos recommandations. Antoine ?
Alors moi, je vais vous recommander une émission de radio. Donc diffusée sur France Inter. Actuellement, là, durant l'été, elle est diffusée le soir, du lundi au vendredi. Présentée par Fabrice Drouel et elle s'appelle Affaires Sensibles. Donc c'est une émission qui dure 53 minutes et qui revient sur des faits d'actualité. Alors ça peut être du sport, ça peut être de l'actualité politique ou people même.
Ou des faits divers.
Ou des faits divers, voilà. Elle est constituée pendant... On va dire les deux tiers de l'épisode de l'émission, il y a donc le présentateur Fabrice Drouel qui raconte l'histoire. Donc c'est une espèce de monologue avec un fond sonore. Moi, je trouve que c'est super bien mis en scène. Et dans le dernier tiers, il y a un invité, souvent, qui a écrit un livre sur le sujet et puis qui parle. Ou alors c'est un professeur, ou alors voilà, c'est quelqu'un qui a un rapport en tout cas avec le sujet et qui vient éclairer ou approfondir certains sujets mis en évidence durant la première partie de l'émission.
Bien, bon, vu qu'on a un côté négatif pour ces recommandations, on va peut-être y passer tout de suite pour finir sur des choses positives. Donc Pierre, la non-recommandation.
Je n'ai pas vraiment une non-recommandation, j'ai juste d'éviter de jouer à Pokémon Go. Gardez votre cerveau allumé si jamais vous osez y jouer, parce que voilà, vous ne résistez pas à l'effet de mode, pour éviter de vous prendre une voiture ou de tomber dans un fossé. Mais si vous pouvez éviter de jouer, ça serait mieux.
Seb, à toi.
Alors moi, je vais recommander quelqu'un. Je sais pas si on l'a déjà fait, peut-être. Hein,
c'est une fille.
Je ne crois pas.
Non, mais puis pour une fois, c'est pas une fille en plus. Hein. C'est dire l'intérêt du mec. Donc c'est quelqu'un qui s'appelle Étienne Klein, donc qui est un physicien philosophe. Alors qui en
c'est vrai. J'ai peur quand tu dis des trucs comme
mais
ça.
Mais en plus, là, je suis en mode très sérieux. Donc entre guillemets, c'est un collègue à moi puisqu'il bosse aussi au CEA, sauf qu'il est à un niveau. 100 alors que moi je suis niveau 1.
C'est ton maître absolu quoi.
Ouais, c'est le maître absolu.
C'est ton Obi-Wan Kenobi.
Ouais, c'est mon Yoda même.
Ah, Yoda.
Et ouais, alors j'incite les gens à taper son nom par exemple dans YouTube où on a accès à beaucoup de ses conférences ou même à des cours qu'il donne à Centrale sur l'introduction. Alors principalement, c'est tout ce qui est relativité, physique quantique ou la notion d'espace-temps. C'est passionnant. Il y a notamment une vidéo alors, qui est divisée en 7 hein, sur YouTube sur l'introduction à la philosophie des sciences. Alors, je pense que pour démarrer, c'est ce qu'il y a de plus simple pour voir si on adhère ou pas au personnage, parce que bon, il a une bonne façon de vulgariser ces phénomènes là. Donc quand on est passionné, c'est de niveau bien validé, bien plus, contrairement à des fois ce qu'on peut lire qui est un peu beaucoup de raccourcis. Et puis pour les gens qui sont vraiment déjà très très fans et qui aiment bien cette science là il a une émission sur France Culture tous les samedis à 11h qui s'appelle Conversation Scientifique. Mais là, entre guillemets, si vous n'avez pas aimé la vidéo, sa conférence sur YouTube, faut pas l'écouter l'émission, parce que là, il reçoit des invités, souvent des chercheurs du CERN ou du CEA ou du CNRS. Et c'est assez pointu. On n'est plus dans la vulgarisation. On n'est pas
scientifique.
Quoi. Ouais, on est vraiment... C'est assez relevé, quoi, on va dire. Alors, il n'y a pas besoin d'être bon en maths, hein, y a simplement besoin d'être...
D'être bon en physique.
Non, mais de connaître, on va dire, un peu l'univers, parce que jamais il parle d'équations, choses comme ça. C'est plus qu'il parle d'approches ou de phénomènes. Évidemment, si on n'en a jamais entendu parler, ça peut être un peu compliqué. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'être expert en maths, d'avoir fait Mathsup pour comprendre non plus ces émissions. En tout cas, voilà, les
passionnés... Mathsup suffit simplement, suffisamment.
Non, mais les gens qui sont passionnés de toutes ces questions d'univers, d'espace-temps, de choses comme ça... dire des fois sur les films de science-fiction qu'est-ce qui peut être vrai, pas vrai, enfin voilà.
Étienne Klein,
K-L-E-I-N, et voilà, il a plein de vidéos sur YouTube. Bon, qui ont 50 000 vues, hein, c'est sûr que c'est pas c'est pas Norman qui a été aux toilettes, mais bon, c'est Étienne Klein, quoi, il a physique quantique.
Bah, on va redescendre tout de suite d'un niveau, si tu veux, hein, parce que moi, je vais vous recommander une série. En rappel un petit peu de notre podcast de la semaine dernière, puisque c'est une série avec un super-héros, mais qui est dans les Marvel, hein, désolé.
Oh là là,
oh merde.
On ressemble du côté obscur.
Voilà, et c'est Daredevil, donc c'est une série qui est diffusée sur Netflix, et qui est, alors justement j'aime bien parce qu'elle est à la fois assez sombre par rapport à d'autres séries de super-héros. Il n'y a pas trop de personnages, mais ils sont plutôt bien dessinés, les méchants sont...
Quand tu dis plutôt bien dessiné, il a des abdos, le héros, quoi, c'est ça, non ?
Non, même pas, c'est pas pour...
Bien dessinée, quoi.
C'est comme Arrow, quoi.
En fait, si, je crois qu'il en a, mais non, il n'est pas du tout comme Arrow. Non, justement, c'est pas du tout le même genre de série. C'est alors par contre parfois très violent. J'avoue qu'il y a des scènes où je détourne les yeux parce que j'arrive pas à les regarder. Hein, donc
les scènes où il enlève le t-shirt,
ouais, quand il s'habille, c'est trop violent pour elle.
Non, mais c'est pas du tout ça comme série. Et les méchants sont, les personnages sont bien dessinés. Donc non, moi je trouve que c'est une série sympa à regarder.
Ça fait pas deux fois que tu la recommandes déjà, non d'ailleurs ?
Non, j'avais fait Arrow, mais je crois pas. Hein. Ou alors j'ai oublié.
Non, c'est possible. Mais je dis, c'est une bonne série. Hein.
En manque d'inspiration. Et donc on va se retrouver fin septembre pour ce coup-ci un podcast classique. Et comme on vous l'avait annoncé la dernière fois, ce sera un podcast sur les films de guerre côté militaire. À bientôt.
Bye bye. Bye.